Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'enregistrer un épisode avec un humoriste et un auteur de talent, qui est aussi le co-animateur du Gong Show et un des 6 propriétaires du Bordel Comedy Club où on enregistre aujourd'hui. Je reçois Charles Deschamps. Comment ça va ?
Ça va très bien, content d'être là.
Mais moi aussi, je suis dans le Bordel Studio. Je suis trop content d'être là. En tant que fan du monde, déjà, rien que venir au Bordel, je suis trop content. Donc merci beaucoup d'avoir accepté de participer à mon podcast.
Ça fait plaisir.
Toi, t'as déjà enregistré pas mal de podcasts, on se l'est dit juste avant. Tu es passé dans Poule Mouillée, dans The Pantelis French Cast, dans The Podcast, Le Carré de Sable de Pierre-Bruno Rivard, Arc de Pascal Cameron, Trois Bières ou encore bien sûr Sous Écoute de Mike Ward. Est-ce que toi-même, t'es consommateur de podcasts? Et qu'est-ce que t'aimes dans ce format?
J'aime pas ça.
Hey, fin de l'épisode.
la vérité, c'est que ça fait partie quasiment maintenant du métier d'humoriste d'être un bon invité de podcast, mm-hmm. L'impression. Tu sais, avant, j'ai l'impression que c'était être dans les médias, c'était de paraître en couverture des magazines à potins, d'être à la télé. Mais j'ai l'impression que maintenant, être un bon invité de podcast fait partie du métier d'humoriste. J'écoutais beaucoup Sous Écoute quand c'est sorti, les premiers épisodes. Les premiers épisodes n'étaient pas tournés devant le public, il y avait quelque chose de très geek d'humour, de très... ça parlait de la forme, de l'art, ça parlait du métier, ça parlait... Tandis que maintenant, Sous Écoute est plus rendu dans l'anecdotique, et plus dans dans la vie des humoristes, qu'est-ce qui se passe.
Est-ce que tu avais écouté le premier épisode avec Stéphane Fallu sur
ouais,
Skype?
Ouais, je l'ai écouté genre quand ça sortit,
parce que moi aussi, je l'ai écouté là-dessus, parce que moi, j'avais commencé l'humour québécois avec Stéphane Fallu, et du coup, je suis tombé sur le podcast Sous Écoute parce qu'il était l'invité en fait, et c'est comme ça que j'ai découvert Mike Ward. Donc quand j'ai dit ça à Stéphane Fallu, il m'a dit t'as découvert Mike Ward par moi. Ça n'arrive jamais dans ce sens là
C'est vrai que ça c'est rare, mais je te dirais que depuis que l'humour est plus rentré dans ma vie à temps plein, de parler d'humour avec mes amis, de parler d'humour avec ma blonde, d'être dans les shows d'humour, d'être dans les loges d'humour, quand j'ai mis mes écouteurs, c'est soit pour entendre du stand-up, mais pas pour entendre parler du stand-up. On dirait que j'ai coupé cette partie-là de entendre parler des humoristes, c'est beaucoup déjà dans ma vie, fait que j'ai tassé un peu ce côté-là. J'ai une petite passe de podcast True Crime que j'ai écouté un peu, mais j'écoute quasiment plus de podcast.
Ok. Mais par contre, j'ai entendu que tu avais toi-même un projet de podcast avec Maxime Martin.
Oui, qui est en développement en ce moment. Le podcast est beaucoup dans l'avenir, je pense que c'est important d'en faire. Puis là, je devrais tout le monde d'en écouter, mais moi, j'en écoute pas, fait que je sais pas. Je suis pas un bon vendeur, là, mais ouais, ça, j'écoute pas de podcast tant que ça.
Et est-ce que tu peux parler un peu du podcast avec Maxime Martin qui s'appelle Deal Avec?
Je peux pas en parler de ça, c'est pas encore sorti, mais il est encore en travers. Fait que on a 7-8 épisodes de tournée, puis on est vraiment en train de trouver notre angle un peu plus, de trouver un angle qui est... je pense qu'on vit dans une société en ce moment où c'est le fun d'être edgy, mais il y a très peu d'écoute. On va dans les sujets, mais souvent c'est pour détruire des gens qui pensent pas comme nous autres. Puis là, d'aller peut-être d'aller dans le edgy, mais d'être dans l'écoute, d'aller à la rencontre de deux opinions différentes, puis d'essayer de trouver un terrain d'entente. Fait que le côté deal avec de Max Martin qui a des opinions, mais que je trouve qu'il est un bel être humain qui s'est rendu un monsieur qui est moins fâché que mettons que quand il avait 22 ans. D'être à l'écoute des opinions qui sont différentes, puis de quand même garder son opinion. Je trouve que c'est très intéressant travailler avec ce gars.
Mais ce seraient des humoristes qui seraient invités?
Non, pas nécessairement.
Ok.
À date, sur les 8 invités qu'on a eu, on a eu un humoriste.
Bah, j'ai hâte d'écouter ça. Parce que moi, contrairement à toi, je passe mon temps à écouter des podcasts. Parce que moi, j'ai moins l'occasion de discuter d'humour avec tout le monde. Moi, souvent, j'habite un peu loin des scènes. Bon, maintenant que je suis à Montréal, un peu plus l'occasion. Mais parler d'humour, c'est ce que je préfère faire. Du coup, un podcast, pour moi, c'est comme si je parlais d'humour. C'est juste que j'assiste pas à la conversation, mais j'écoute.
T'es dans l'écoute de la...
Ouais, c'est ça. Et après, sous-écoute, c'est plus pour le... C'est un spectacle.
Ouais, c'est un spectacle, si vous écoutez.
C'est ça.
C'est quasiment du stand-up en tant que tel. Il y a des punchs là-dedans. C'est oui. Drôle.
Mais je sais pas si t'es d'accord avec moi là-dessus, mais ce que je trouve très très fort, c'est que Mike Ward, qui présente l'émission pour ceux qui n'écoutent pas sous écoute, c'est toujours le plus drôle et je trouve ça très fort.
Je comprends pas, Mike. Je ne le comprends pas. Des fois, alors, c'est pas un secret pour personne. Il est en boisson, là. Après mm-hmm. plusieurs consommations, c'est son deuxième podcast. Il a plus l'air d'être capable de marcher droit. Puis là, quelqu'un raconte une anecdote qu'il a raconté 1000 fois, puis lui, il est comme « joke, 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 joke ». C'est même pas son anecdote, il est même pas tout là. Punch, là, ce gars-là, il c'est un génie, il y a quelque chose d'intégré en dedans de lui qui est impossible à battre.
Et il fait des running gags, il va refaire un punch à la fin.
Des petits acteurs, des callbacks, c'est intimidant d'être avec lui durant ses écoutes, t'es comme… Parce qu'il faut que tu parles, mais t'as envie de l'écouter. Il punch tellement. Il est vraiment solide.
Mais oui, je me suis demandé si c'était intimidant de participer à sous-écoute parce que tu te sens un peu obligé d'être drôle, mais en même temps, si tu veux l'être, est-ce que tu vas l'être?
Et moi, mes premiers sous-écoutes étaient vraiment pas bons parce que j'étais stressé, j'avais l'impression qu'il fallait que je sois en performance. Fait que j'étais plus dans l'écoute de ce que le monde disait. J'essayais juste de trouver un punch. Puis là, tu me vois à l'écran, je suis dans ma tête. Puis je suis juste concentré à essayer. Puis tu peux pas battre Mike. Tu peux pas être aussi drôle. Fait que les deux, trois derniers sous-écoutes que j'ai faites, ils étaient plus avec des amis. Puis là, j'ai fait, hey, chaque fois que tu fais sous-écoute, tout le monde, les commentaires sont méchants. Ils te disent que t'es pas drôle. Fait que sois pas drôle, puis calisse-toi-en. Tu sais, comme genre, c'est pas grave. Fait que j'ai eu du fun à mes derniers sous-écoutes sur. J'écoutais mes amis, puis j'essayais de les mettre en valeur. Tu sais, j'étais dans l'écoute. J'envoyais des prémices, mais on m'en renvoyait. Puis là, c'était les punch nets. Puis, tu sais, je pense que le dernier sous-écoute que j'ai fait avec Anthony Rémillard, j'ai fait genre 22 jokes de Anthony qui vient trop vite parce qu'il en parle lui-même sur scène qui est précoce. Mais genre, j'aurais pas pu écrire 22 jokes de précoce si j'étais assis devant mon ordinateur mm-hmm. en 3 heures. Mais là, en 3 heures, j'ai sorti 22 en impro différentes qui a punché beaucoup. Fait que. C'est une espèce de... Faire sous-écoute, faut que tu sois dans un état zen, calme, faut que tu sois toi, mais toi magnifié, mais que tu stresses pas sur être toi magnifié. Il y a du monde qui l'ont facilement être bon en podcast. Moi, ça m'a pris plusieurs épisodes de sous-écoute avant de catcher c'était quoi être bon à sous-écoute.
Ok, ouais. Ben, je comprends, parce que, oui, comme tu dis, il est tellement drôle que t'as une pression quand t'es humoriste, t'as envie d'être la personne la plus drôle dans la pièce.
Ouais.
Mais je pense que ceux qui ont un peu trop forcé à vouloir être drôle, c'est les épisodes où tu fais... Ça se ressent en fait.
Ça se ressent beaucoup, puis surtout que, heureusement, tu te fais plus reconnaître dans la rue par tes sous-écoutes que par n'importe quel spectacle télé du monde.
Ouais.
Mettons, le prochain stand-up était le gros show télé de stand-up que j'ai participé il y a 2 ans, 3 ans.
On va en parler.
Une fois sur deux, on m'a reconnu dans la rue à cause de sous-écoutes, pas à cause du prochain stand-up.
Ok, oui.
Fait que t'es mieux d'être drôle à sous-écoute, t'es mieux d'être bon à sous-écoute. Puis j'ai l'impression que sous-écoute en plus, je sais pas c'est quoi les codes d'écoute du prochain stand-up, mais mettons que c'est très similaire. Monsieur, madame, tout le monde écoute le prochain stand-up. Les gros fans d'humour écoutent sous-écoute. Fait que si tu veux vendre des billets, si tu veux que le monde t'aime comme humoriste, t'es bien mieux d'être drôle à sous-écoute qu'être drôle en stand-up. Okay. C'est ça qui est spécial.
Ouais, c'est fou. Je l'ai dit aussi dans la présentation, t'animes le Gong Show
avec
Anthony Rémillard chaque mercredi au Bordel Comedy Club.
Ouais.
La première, elle a eu lieu le 27 avril dernier. Donc, je vais expliquer un peu le show pour ceux qui ne connaissent pas parce que c'est principalement écouté en France et en Belgique, pas encore connu autant qu'ici. Donc, c'est un show que vous pouvez retrouver sur YouTube. Au moment où on enregistre, il y a 25 épisodes qui sont disponibles. Le concept, c'est celui d'un open mic pendant lequel 5 humoristes vont présenter un numéro devant le public et un jury, composé de Anthony Rémillard, toi et un juge invité. Mais, petit twist, si vous trouvez que le sketch est pas drôle, pas original ou trop classique, vous frappez dans un gong acheté sur le marketplace pour interrompre le sketch et roaster l'humoriste.
Ouais.
Et le but des humoristes, c'est de tenir 3 minutes sans se faire gonger. D'où vous est venue l'idée de ce show-là et qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire?
À la base, Ça vient d'une discussion avec Anas Asuna, qui est un ami humoriste que j'adore. Lui, il animait dans le temps l'Abreuvoir tous les mercredis. Puis, on est beaucoup d'humoristes en ce moment au Québec. Fait que t'essaies de donner des chances à des jeunes humoristes, mais des fois, t'as des jeunes humoristes qui sont pas prêts à ce spectacle-là, à jouer à l'Abreuvoir. C'est une soirée qui est réputée, qui est difficile à avoir du booking. Fait que de voir un jeune humoriste qui est pas prêt, c'est fâchant pour l'animateur, parce que t'es comme, hey, j'aurais tellement donné cette chance-là à lui, à elle, qui était prête. Fait que là, il me disait, il faudrait trouver une manière de catégoriser les humoristes en A, B, C, D. Puis là, j'étais comme, comment qu'on fait ça? C'est comme, on fait des auditions. Puis là, l'idée des auditions, c'est comme, ils prêtent devant le public. Là, fait que l'idée, c'est partir un peu de ça, de si tu réussis à faire le gang show, mettons deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, puis tu demandes du booking, t'as comme un espèce de stamp de, hey, ça fait 5-3 minutes que je présente qui sont différents. Fait que j'ai au moins 15 minutes de matériel différent que Charles, Anthony et un juge invité ont approved, t'sais, en fait, ça, c'est drôle.
Oui, plus le public du bordel.
Plus le public du bordel. Fait que ça t'arrive avec une espèce de carte de visite pour demander du booking qui est intéressante. Fait que l'idée est partie de ça. On cherchait une manière d'arrêter les numéros. Puis, le gong show, c'est un show des années 70 aux États-Unis. Il y avait un gong, mais c'était de la variété. Fait que tu vas avoir du chant, de la musique.
Magicien.
Magicien, mime. Et il y avait un stand-up qui était récurrent, qui était un gars avec un sac de papier sur la tête pour pas se faire reconnaître. Qui faisait du stand-up avec un sac de papier sur la tête. Et c'était vraiment, vraiment du bon stand-up pour les années 70. Puis, fait que l'idée était de revamper le gong show américain, puis de l'amener au stand-up. Et c'est sûr qu'on se cachera pas que les inspirations de Kill Tony, qui est une émission que j'adore, qui est, où ce que lui, il fait juste être méchant.
Oui.
Il y a pas de bon moment à Kill Tony. Il fait juste être méchant, puis les humains sont juste une minute. Puis, tu sais, il y a aussi des variantes du prochain stand-up, des variantes d'En route de mon premier gala qui ont tout intégré dans ce show-là. Puis de l'amener sur le web, parce qu'il y a quelque chose de très beau sur le web où que les artistes ont le droit de dire ce qu'ils veulent. On ne demande pas de voir les textes, on ne demande pas de couper des jokes. Tu veux faire une grosse joke heavy, tu as le droit de faire une grosse joke heavy, on ne t'accoupera pas au montage. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Puis on présente ça tel quel au lieu d'avoir du montage puis de la triche. C'est du vrai stand-up pur.
OK. Et chaque épisode a au moins 20 000 écoutes.
Ouais.
Sauf l'épisode avec Mike Ward qui en a 40 000 parce que Mike Ward est dedans.
Parce que Mike Ward est dedans. Puis là, en plus, il commence à avoir des views de plus audio.
Okay,
là,
oui.
On commence à parler à du 30-35 000 par épisode, ce qui sont des codes d'écoute quasiment de mauvaise émission de télé. Fait que je suis content.
Okay. À fond, c'est super cool. Mais c'est super chouette à regarder. Moi, j'adore. J'arrive pas à écouter. Parce que mais moi, j'arrive pas à écouter du stand-up tout seul. Je sais pas pourquoi. Il me faut toujours.
Même tes humoristes préférés, tes écoutes pas en audio à la maison.
Mais j'arrive pas à écouter le stand-up. Je crois qu'il y a quelque chose qui se passe dans le visage, dans la façon de le dire, que j'ai pas assez à l'audio. Bon, je sais pas, j'ai pas une concentration suffisante pour tenir. Mais j'ai toujours consommé le stand-up.
Des spectacles préférés que t'as. Mettons un spectacle de, je sais pas c'est qui tes humoristes préférés, mais réécouter une deuxième, troisième écoute juste à l'audio.
Si ça, dans ce cas-là, oui, parce que je connais les spectacles vraiment que j'aime beaucoup, je pourrais les réécouter, je les connais par cœur, je pourrais faire les jokes à leur place. Mais en vrai, je les regarde toujours
en vidéo.
Je crois que c'est vraiment le moment.
Je comprends que c'est mille fois meilleur, mais pour moi, j'écoute du stand-up en joguant.
Mm-hmm.
Puis des fois, j'ai l'impression que je pourrais écouter du stand-up en espagnol, puis je parle pas un mot d'espagnol, juste parce que j'aime la musicalité du ta-da-da, ta-da-da, ta-da, ta-da, ta-da. Pour moi, c'est un solo de drum, de jazz, de écouter la musicalité du stand-up sans écouter les jokes, j'aime ça.
Ok, oui. Ouais, je comprends. Mais ouais, il y a quelque chose qui se passe dans le visage, dans le truc, et encore plus quand t'es...
Dans la livraison, le delivery, d'être dans la salle.
C'est ça, quand t'es dans la salle, il y a une énergie, il y a un truc. Une fois que t'es dans une salle, tu le ressens.
C'est
fou. Et dans une salle incroyable comme le bordel, encore plus. J'adore cet endroit. Je crois que je vais le dire un paquet de fois pendant l'épisode.
Merci beaucoup, ça me gêne.
Mais qu'est-ce que t'aimes dans le gong show? Qu'est-ce que t'aimes de ce show-là?
Le côté vrai, le côté réel. Tu sais, tu regardes du stand-up à la télévision. Souvent, c'est des vedettes qui sont fait écrire un peu des textes parce que il y avait pas de matériel à proposer. Puis le Radio-Canada ou TVA veulent absolument que telle vedette soit là. Fait que là, ils ont mis 3-4 auteurs pour aider à pondre un texte. Ils vont mettre une vedette de la chanson, une vedette de télé-réalité dans le gala. Puis tout le monde est bon parce qu'il y a du montage. Là, ce qui est le fun, c'est qu'il y a du monde qui sont pas bons. Il y a quelque chose de authentique là-dedans, mais aussi qui permet d'apprécier quelqu'un qui est bon. Tu sais, quand tu regardes, mettons, une Formule 1 rouler à côté d'une autre Formule 1, les deux ont l'air d'aller vite, mais là à côté d'un bicycle à pédale, là tu fais comme, oh shit, elle va vraiment vite. Oui. Fait que de voir dans le même épisode quelqu'un que c'est son deuxième spectacle, puis de voir quelqu'un que c'est son 300e, tu fais comme, ah, c'est ça être bon. Mm-hmm. Ah, c'est ça les subtilités de l'art. Ok, ah, puis de voir du monde qui l'ont naturel. Il y a une fille, c'était son deuxième spectacle, elle a eu un standing ovation, Catherine Bellil. Elle a compris les codes de l'humour tellement rapidement, versus du monde qui a fait 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui viennent au gang show, puis qui se font gagner parce que tu l'as pas. T'as pas assez travaillé, c'est possible d'apprendre ce métier-là. Il y a des gens qui sont pas naturels qui l'apprennent, qui viennent d'excellents humoristes, mais il y a du monde qui, même s'ils travaillent, ils l'ont pas encore trouvé, puis c'est pas drôle, tu sais.
Ouais, ben c'est quelque chose que j'aime déjà dans le stand-up en général, mais c'est quelque chose qu'on ressent quand tu regardes le gong show, c'est un vrai show de stand-up.
Ouais.
Mais imaginons.
Ouais.
Qu'un humoriste belge, par exemple, hésite à faire le gong show,
ouais.
Qu'est-ce que tu lui dirais? Parce que, soyons honnêtes, se faire juger par un jury, la possibilité de se faire gonger, ça fait un peu peur, quoi.
Ça fait peur, mais la vérité, là, c'est que... Vois ça comme... T'écoutes-tu des télé-réalités de quelque... Que ce soit... Que ce soit... On oublie ceux qui se font éliminer. On se rappelle de ceux qui sont restés puis qui ont marqué. Mm-hmm. Mais ceux qui se font éliminer, là... Je pourrais pas te nommer c'est qui les trois plus gros fails du gong show. Je pourrais te nommer l'anecdote de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi que c'est planté. Mm-hmm. J'ai oublié leur nom, j'ai oublié leur visage. Fait que te planter au gong show...
Mais est-ce que tu penses pas que quelqu'un qui se plante au gong show, ça va lui enlever des possibilités ailleurs parce qu'on l'aura vu?
Ben là, faudrait checker comment ça marche, mettons, l'algorithme de Google. Mettons que je m'appelle Jonathan Pelletier, puis que je me suis planté 4 fois au gang show, mais que la 5e fois, ça a super bien été. Je vais envoyer, mettons, je vais dire à Mylène Dubrois, regarde ma présentation du gang show, je suis prête pour jouer au bras. À quel point elle va aller googler, puis là, elle va trouver oui. Tes 4 vieux gang show.
Oui, mais je pense que maintenant, les programmateurs et les autres humoristes regardent le gang show.
Ouais.
Et donc, ils vont se dire, ah, c'est peut-être le gars d'épisode 3 qui s'est planté.
Je ou... me rappelle pas qui avait dans l'épisode 3, puis okay. J'étais là. J'ai insulté la personne, j'étais méchant, là. Tu sais, il y a du moment que j'ai dit, lâche l'humour, puis je pourrais les croiser. Il y a un gars que j'ai planté 7 semaines au gang show, que je me suis pas rappelé qu'il était venu il y a 2 mois. Puis là, je suis, ah, c'est toi qui avais une. Ah, t'étais tellement meilleur la dernière fois. Tu sais, le monde oublie, là, c'est des 3 minutes.
Ok, oui.
Tu sais, il y a des humoristes que j'adorais, des spectacles complets que j'oublie leur nom. Fait que le 3 minutes moyen de quelqu'un qui était moyen, je l'oublie en dans 2 semaines. Là.
C'est vrai que c'est un peu rassurant.
C'est
une autre pièce dans ma réflexion, tu vois.
Il y a quelqu'un qui a parlé du gang show en disant I risk, I reward. Désolé pour l'accent anglophone. Mm-hmm. Mais il y a personne à date que je pense que ça nuit à sa carrière en fait, le gang show. Puis il y a un gars qui s'appelle Angelo Chiraldi que lui il a gagné en route vers mon premier galoche pour rire 5 ans. Il a fait l'école de la salle d'humour, il a fait un ou deux galoches pour rire, puis il a dit j'ai eu plus de likes sur ma page, de commentaires après ma participation au gang show que gagné en route vers mon premier galoche.
Ok.
Fait que wow. Ça a une influence quand même qui peut être le fun là.
Est-ce que c'est difficile de trouver des humoristes qui veulent participer et des humoristes qui veulent être dans le jury ou pas du tout?
Il y a beaucoup de gens qui veulent être dans le jury, ça c'est le fun, c'est le bout de le fun d'être dans le jury. Trouver des humoristes, j'ai délégué très rapidement le booking de cette soirée là parce que j'ai pas le droit de dire hey viens sur ma soirée, je vais t'insulter.
Oui.
Si je pense que ce show là va avoir une durée de vie qui peut pas être qui n'est pas infini.
Mm-hmm.
Nous autres, on se dit un gros maximum 5 ans avec peut-être une pause dans le milieu.
Okay.
Fait que de peut-être faire un 2 ans, pause 2 ans. Parce qu'à un moment donné, il va manquer de gens qui veulent essayer.
Oui, si c'est toujours les mêmes qu'on revoit.
C'est toujours les mêmes qu'on revoit. Mais tu sais, l'école de l'humour crée 12 finissants par année.
Mm-hmm.
Ils ont plusieurs humoristes qui font les cours du soir. Fait que tu sais, je pense qu'il y a 50-60 nouveaux humoristes par année. Nous autres, on passe 5 humoristes par semaine. On passe 5 humoristes par semaine, fois 5 ans. On passe 250 humoristes par année.
Mmh. Ouais. Après, tu peux ajouter aussi tous les humoristes francophones qui vont,
Venir à Montréal.
Ouais, c'est ça.
Puis s'il y a du monde qui font... Mettons que le monde font en moyenne 2 fois par année, on passe 125 humoristes. Fait que si on en crée 50 de nouveaux par année, tu sais, à un moment donné, ça va s'essouffler, mais je pense qu'on peut être là 4-5 ans facilement, que ce soit le fun. Puis on va oublier en même temps tous les monongues qui n'ont jamais fait, puis on va peut-être le faire à un moment donné, qu'on rêve d'avoir. Là.
OK. À date, t'as dit que tu avais oublié celui qui avait fait des mauvais passages, mais est-ce que tu te rappelles de celui qui a fait le meilleur passage? Le meilleur passage au gong show?
Le meilleur passage? En fait, l'humour est tellement... Tu peux pas catégoriser. Mm-hmm. Je pourrais dire que le numéro... En fait, tu peux faire un top 5 de personnes que j'ai fait « wow » parce que c'était intéressant, c'était original. Puis les cinq sont totalement différents. Une Catherine Bellil, que c'est son deuxième numéro, qui allait être faire quelque chose d'un peu classique, une chanson où ce que il y a des grosses jokes du monde noir, ce qui a fait hommage à une rubrique nécrologique du journal. Puis elle a l'air d'avoir 15 ans et toute cute. Fait que de voir une petite fille frêle de 15 ans faire des jokes de rubrique nécrologique, elle a compris son casting, elle a compris que c'est quelque chose de bizarre. Pour un deuxième show, t'es pas supposé avoir compris autant de petits éléments qui rendent ton stand-up aussi efficace.
Est-ce que c'est la chanson André est mort?
Ouais.
Ah, mais je l'ai vu hier, j'ai joué au Billy Buck.
Ok.
Et elle le faisait hier. Et c'est trop drôle.
C'est
le show est vraiment drôle parce que le public a embarqué avec elle. Et c'est très drôle de, enfin, d'avoir un, tout un public qui chante c'est André est mort. Et c'était vraiment drôle. Ouais, ok.
Un gars comme Alex Harrison qui a inventé un nouveau procédé, les imitations doubles.
Ah oui.
Ça, pour moi, c'est tellement niaiseux, c'est tellement stupide, mais c'est tellement efficace de...
Je l'ai vu hier aussi.
Deux affaires en une imitation, c'est comme... C'est, personne n'a jamais fait ça, là. Genre, tout ce que j'ai consommé de stand-up, je n'ai jamais vu ça.
C'est vrai, pareil. C'est très absurde et c'est drôle.
Absurde et facile d'accès à la fois.
Oui.
Fait que c'est excessivement fort, puis pour un gars qui fait en bas d'un an qui fait ça, c'est très fort de faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Fait que j'ai un gros respect. Un des défauts du Gang Show, malheureusement, c'est que j'ai vu d'excellents numéros de stand-up, mettons, classiques. Mm-hmm. Qu'on oublie parce okay. qu'il y a beaucoup de stunts, puis il y a beaucoup de « wow, il a essayé ça ». Comme cette semaine, il y a Olivier Picard, que j'adore, qui a fait monter un extraterrestre sur scène, puis c'est lui qui faisait sa voix off, puis c'était des jokes d'extraterrestre. Weird, mais tu sais, tout était parfait, le son, l'extraterrestre parlait, fait qu'il avait sa voix, puis lui, c'était comme s'il y avait les sous-titres. Mais tu sais, c'était du génie, mais après ça, c'est sûr que le bit de stand-up, où c'est un super beau numéro sur la dépression, mettons, en 3 minutes, tu l'oublies, tu te rappelles de l'extraterrestre. Parce que y a un fucking extraterrestre qui a fait du stand-up, pis c'était drôle et efficace.
Okay.
Fait que le stand-up classique, il, malheureusement, passe un peu plus dans l'oubli. Mais en même temps, t'sais, le but du second show-là, c'est de donner un show, pis les bons stand-up qui passent là ont des belles répercussions aussi, je pense, dans leur carrière. Après ça, y a un gars qui... son nom de scène, c'est le Marquis de Sade. Il vient au Gang Show, à chaque fois c'est bon, puis il remplit sa salle sa soirée du mois après ça, qui est une mensuelle, juste par son passage.
Ok, ouais.
Fait que lui vient faire 3 minutes de stand-up, il vient de vendre 100 billets. Tu sais, bravo, là. C'est...
À fond. Est-ce que t'avais d'autres humoristes en tête?
Que je veux nommer. Oh mon dieu, je veux arrêter là parce que j'ai peur de comme fâcher ceux que je nommerai pas.
D'accord.
Parce qu'il y en a beaucoup que j'ai aimé. C'est ça, je veux pas nommer.
Ça marche. Et j'ai entendu que t'avais envie d'aller faire le Gong Show à Paris.
On s'en va le faire à Paris.
Vous allez faire à Paris, vous allez faire ça où?
C'est le 26 octobre. J'ai oublié le nom de la salle. je vais trouver le nom de la salle. C'est dans le Marais. C'est là qu'il y a le Blabla Comedy Show, qui est une mensuelle.
Ok.
Je peux te montrer une photo, mais je sais pas si c'est où. J'ai pas de nom de
ça a l'air de s'appeler.
C'est une salle de spectacle dans un hôtel.
Ok, ça a l'air de s'appeler La Scène, mais je connais pas. Mais donc, du coup, tu vas jouer le Gong Show là-bas.
Ouais.
Tu vas aussi faire des shows là-bas, du moins.
Ouais. Ça va être ma 4e fois, je pense, en Europe à les jouer.
Est-ce que t'as aimé tes expériences jusque-là, en Europe?
J'adore aller jouer ailleurs, juste pour voir comment que les autres humoristes travaillent. Mm-hmm. Souvent, c'est pas les mêmes sujets qui sont tabous. Ils travaillent pas de la même manière. Souvent, comme les humoristes, surtout parisiens, ils ont beaucoup, sont beaucoup dans la préparation de spectacles solo. Ils ont toujours une heure qui roule. C'est que quand ils vont faire les plateaux, ils viennent faire souvent plus leur meilleur matériel pour vendre des billets pour leur solo à eux. Mm-hmm. Tandis que nous, quand on vient ici, on fait notre pire matériel pour l'améliorer. Fait que de voir un peu comment que les autres travaillent, voir les sujets d'actualité, voir, t'apprends tellement sur la culture d'un pays en voyant leur stand-up, sur c'est quoi les problèmes de la société. C'est une activité touristique quasiment aller voir un show de stand-up dans une autre ville.
Ouais,
j'adore ça. Puis ça me met en danger aussi sur scène d'essayer des affaires. J'aime ça me mettre en danger, puis ça sort de tes pantoufles, puis tu recommences à zéro, tu veux te refaire des preuves dans une autre ville. T'es personne, c'est qui là-bas. Là.
Vous allez faire un Gong Show là-bas. Est-ce qu'il y a déjà des humoristes qui sont prêts à faire le Gong Show?
Ben là, je suis en train de travailler là-dessus. C'est dans 10 jours. dans 20 jours, 19 jours. J'ai beaucoup d'amis quand même qui habitent à Paris. Quelques personnes qui ont fait le Gong Show qui vont nous aider aussi à organiser le tout. Il faut juste convaincre 8 à 10 humoristes de participer et à se faire insulter par des Québécois. Ça va être ça le bout dur.
Qui ne connaissent pas
en plus. Qui ne connaissent pas, puis qui n'ont aucune idée pourquoi on dit qu'ils sont pas bons. Mais des fois, j'ai des idées, puis je pense pas au complet à l'idée. Puis ça, ça va être le bout rough. Hey, venez à mon spectacle, je vais insulter votre art.
C'est un bon défi, ouais.
Puis ça, j'ai trouvé la problématique après avoir réservé des billets d'avion et un hôtel. Ça, c'est très moi. Genre, j'aime me mettre dans la, j'aime me mettre dans le trou et essayer de trouver des solutions après.
Mais tu pars avec Anthony Rémilla.
Ouais.
Tu vas faire ton show complet, t'as un 45
non,
minutes.
Non, j'ai pas envie de faire mon show solo là-bas, parce que si c'est pas bon, j'aurais pas le droit d'insulter les humoristes français ou quoi que ça. je me suis pas beaucoup de spectacles de plateau.
Ok.
Je vais faire ça cette semaine, m'en booker un ou deux pour le plaisir, puis me racheter sur les shows, mais, tu sais, mettons, Farid, qui est un bon ami à moi, j'ai pas demandé de jouer au Sarfati, parce que je veux pas me planter au Sarfati.
Mm-hmm.
Je veux aller faire des petits shows, puis pas me planter.
Oui.
Pas le droit d'insulter les autres, puis si ça va bien, là, je vais peut-être demander à jouer au Safati, je vais peut-être demander à jouer dans les autres comedy clubs. J'ai hâte de voir celui de Kev Adams, j'ai hâte de voir.
Le Fridge.
Je m'attendais à voir aussi le
Barbès.
Le Barbès qui est malheureusement fermé, mais j'ai hâte de voir la scène à Paris. J'y ai pas été depuis la pandémie, fait qu'il y a plein de choses qui ont ouvert que j'ai hâte d'aller voir.
Et est-ce que toi, tu vois une différence entre le public québécois et le public français ou belge? Je sais pas si t'as déjà joué en Belgique.
J'ai pas joué en Belgique.
Ah, il faut que tu viennes jouer en Belgique.
Mais j'ai adoré les humoristes belges. Il y en a plusieurs que j'ai vu dernièrement ici. J'oublie tout le temps les noms.
Il y a Fanny Ruet qui est ici cette
Fanny,
semaine.
Fanny, oui, je l'ai. Elle est drôle en tabarnak.
Je la vois samedi, son spectacle complet. Elle joue à la Comédie de Montréal ce samedi. Je vais voir Adi Balkhalidé. Et après, je vais voir Fanny le même soir.
La même soirée?
Ouais.
Belle soirée, ça.
Bonne soirée du monde.
Bonne soirée du monde.
Non, Fanny est très, très, très drôle.
Samedi, c'est demain, ça?
Oui, c'est demain, oui.
Oh, merde. J'ai eu d'y aller.
Ah, il y a des places encore.
J'ai eu d'y aller. Je vais écrire à quelqu'un. Je vais y aller.
Bah, franchement, si tu veux, viens avec moi. On est parti.
C'est à quelle heure, le spectacle de Fanny?
C'est à 22h.
Parfait. Je vais essayer de faire ça. Parce que je vois ici, au bordel, avant, à 5h, 7h. Je peux faire 5h, 7h, 9h, pas jouer à 11h. Ah, il n'y a pas de chance, hein? Ah, parfait. Ah, ben oui, je peux venir. C'est à 22h, parfait, je suis là. J'allais voir Fanny.
Magnifique. Fanny va entendre ça après que je lui ramène des humoristes qui vont venir voir son
show. Mais le pire, c'est que je la connaissais pas. Mm-hmm. On a eu la demande pour qu'elle vienne jouer au bordel. J'étais la stalker, professionnellement, voir ce qu'elle faisait, là, pas t'es voir son compte perso. Je l'ai trouvé fucking drôle. Puis là, elle était ici hier, elle est rentrée dans le bordel, puis elle m'a salué. Elle m'a fait salut, puis là, elle dit, je sais pas comment on fait au Québec, puis là, j'ai serré la main, puis là, elle est partie, puis j'ai regardé le gérant de la salle, je suis comme, c'est qui ça, câlisse? Je savais pas si c'était quelqu'un du public, je savais pas. Parce que les humoristes, je les connais tous ici. Fait que là, elle s'en venait jouer, elle m'a peut-être reconnu, fait qu'elle voulait juste. Puis là, je l'ai vraiment traité comme si c'était une fan du mot un peu bizarre. Puis j'ai vraiment pas été bon, là. Okay. J'ai vraiment été mauvais. Tout le long de la soirée, j'ai pas le temps de la croiser puis lui dire « Hey, comme, j'aimerais ce que tu fais. »
Okay,
ouais. Mais ouais, demain, j'allais voir son show.
À fond. Mais c'est, en Belgique, c'est vraiment l'humoriste en vogue en ce moment.
Elle est drôle en tabarnak.
Elle est vraiment drôle.
Mais c'est qui les deux autres? Il y a une autre Belge qui est venue faire comédie aussi, qui a gagné un concours.
Dena?
Exactement, je l'ai trouvé très 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 drôle.
Très très drôle aussi.
Puis contrairement aux Parisiens, vous êtes plus facile d'approche et plus sympathique.
C'est ce que je
les
dis
Belges
tout...
en général.
C'est ce que je dis à tout le monde.
Les Français qui nous écoutent, vous avez plein d'autres qualités. Mais les Belges ont côté très québécois, plus facile d'approche que les Parisiens.
Ok, ben, ça me va. Et en parallèle, t'as fait une série de shows avec Anthony Rémillard aussi.
Ouais.
En préparation de ton deuxième spectacle.
Ouais.
Vous avez joué à Gatineau, Terrebonne, Longueuil, Trois-Rivières. Vous jouerez à Sherbrooke le 25 novembre.
Ouais.
Et après, à Québec...
Oui, mais j'ai aucune idée, là. Je connais pas mon...
Fais-moi confiance.
Je dis oui, oui, oui.
À Québec, le 5 décembre, est-ce que tu peux parler un peu du show que tu as en préparation et que tu fais en tournée ici avec Anthony?
Je suis encore dans le questionnement de où est ma place dans le milieu artistique québécois. J'ai un amour pour les sujets difficiles, les sujets tabous, les sujets élevés, qui font vraiment le full plaisir aux diffuseurs, producteurs, télé, puis tout ça. Mais en même temps, j'évolue comme être humain, je vieillis, je suis moins peut-être dans la provocation, mais encore dans l'amour des sujets tabous. Fait que c'est encore dans l'expérimentation. À date, le titre de travail de ce spectacle-là, c'est « Mon ami pédophile ». Pis je sais que ça vendra pas comme ça, fait qu'il faut que je trouve un autre type de spectacle.
Moi c'est vendeur.
Ouais.
Moi je veux voir le spectacle avec, sachant ton style d'humour.
Mais toi t'as un geek d'humour, tu sais, comme oui. T'aimes l'humour, mais je sais qu'il y a aucune salle de spectacle au Québec qui voudrait mettre ça sur la marquise « Mon ami pédophile ». J'ai vraiment eu un gars qui est dans mon entourage quand j'étais plus jeune qui a été accusé de possession production pornographie juvénile.
T'en as parlé aussi dans Sous-écoute.
Je l'aborde sur scène, mais pas abordé de manière gore ou trash. Et j'adore ces sujets-là. J'adore aller dans les sujets plus touchés, élevés. Puis malheureusement, c'est pas facile à vendre tout le temps.
Mm-hmm.
Fait que je pense que je vais être dans l'autoproduction toute ma vie. Puis je préfère tellement jouer dans les petites salles que dans les grandes salles. Fait que je pense que je suis encore en train de m'amuser dans la forme de l'humour, d'aller dans ces sujets-là, puis le 45-45 Anthony. C'est juste que c'est une belle manière de... On a créé beaucoup de fans du Gong Show. C'est une belle manière d'aller jouer dans des villes un peu plus loin que je vais moins.
Okay.
Fait que les billets se vendent dans Québec, c'est une salle de 250, ça se remplit super bien. Peut-être que je l'avais fait tout seul, peut-être que je l'aurais moins rempli. Puis j'ai été mal à l'aise de faire de la promo que pour mon spectacle solo quand c'est un projet à deux, le Gong Show. Puis Anto aussi, il était sur le bord de lancer un jour un one-man show. Fait que ça me permet de voir quelle blague qui marche à l'extérieur de Montréal parce que c'est pas les mêmes références. Pas, Fait que c'est un beau projet à deux, ce qu'on fait 45 minutes chaque. Puis on a tout le temps une première partie qui est sur quelqu'un que ce qu'il aurait fort au Gong Show, qu'on laisse la chance. Puis il y en a pour qui ça va bien à date, puis d'autres que ça va l'été, puis c'est pas grave.
Mais qu'est-ce qui fait que t'aimes autant collaborer avec Anthony? Parce qu'il y a le Gong Show.
Oh, il est tellement con, là. Mais Anthony, c'est un ami à la base, mais on a deux styles qui sont quand même très différents. Il est plus dans l'absurde que moi, mais on aime beaucoup jouer les deux avec la forme de l'humour, puis on a une passion pour être différent, original, puis briser les formes du stand-up. Fait que on s'entend super bien là-dessus. Moi, je pense que j'ai une tête de cochon, puis je suis pas le fun à travailler, puis il est capable de m'endurer.
Okay.
Fait que je pense que déjà ça, c'est beaucoup de points pour Anthony. Puis c'est un gars qui est travaillant, qui est un bon partner. Puis surtout dans le Gong Show, j'ai besoin de quelqu'un qui était capable de balancer le fait que moi, je suis très puncher, rose, qui peut être très méchant.
Mm-hmm.
Si on avait été deux dans le même style,
ça aurait été plus méchant.
Ça aurait été plus... Anthony est vraiment, tu sais, de bon enfant, gentil. Il a une bonne humeur. Fait que même quand il dit des affaires hyper méchantes, ça a l'air gentil. Fait que si tu trouves, ça fait un bel équilibre dans le Gong Show qui est une des autres que je vais m'associer avec. Puis après ça, vu que ça va bien dans ce projet-là, des autres projets, souvent on s'est appelé pour faire des affaires ensemble. Puis tu, on a du fun, on s'ostine pas, on a les mêmes valeurs. C'est un bon ami.
Ben cool. Tu disais également dans le podcast Tissé Serré que tu bossais sur le montage de la captation de ton premier spectacle.
Oui.
Est-ce que ça s'en vient?
Ouais, je manque de temps. Mais oui, il est tout monté. Il manque à égaliser le son, que ça, je vais déléguer à quelqu'un. Puis je suis tanné de le regarder parce que c'est mon spectacle. Puis je suis un gros fan de la carrière d'Andrew Schultz. Puis lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a divisé son spectacle en quatre parties, puis l'a mis sur YouTube en quatre parties. Puis je voulais faire la même affaire parce que le déficit d'attention de la population d'aujourd'hui fait que personne ne veut commencer un show d'une heure sur YouTube, mais écouter 4 fois 15 minutes. Fait que là, je suis des fous, je le sépare. Puis je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Je suis un gros fan de stun dans la vie, puis il manque un petit quelque chose de stun. J'aurais le goût de blaster. Je sais pas comment le faire, mais moi, je suis très chanceux dans la vie d'avoir un comedy club, d'avoir les moyens de capter un spectacle, puis de le mettre sur YouTube gratuitement. Il y a un problème en ce moment dans la culture québécoise où que la vie d'un humoriste en ce moment, c'est que tu écris 3 numéros par année, 4 numéros par année, t'en vends un à chaque festival, c'est capté à la télé, puis là, après ça, si t'es chanceux, ils vont le diffuser. Si t'es encore plus chanceux, il va être sur la plateforme web du diffuseur télé. Fait que le monde peut aller l'écouter, mais il va être obligé de se taper 3 minutes d'annonce pour écouter un numéro de 5 minutes qui était à la base 8 minutes qui ont charcuté au montage. Puis dans 2 ans, ton numéro n'existe plus. S'il est fini, il est pas trouvable nulle part. Fait que le gouvernement subventionne ces postes de télé-là, subventionne le côté web de ces postes de télé-là pour, entre guillemets, la culture québécoise. Puis qu'après ça, un artiste qui a mis ses gars de sa table, son art disparaît. Je trouve ça triste. Puis moi, j'ai la chance de pouvoir prendre ces numéros-là que, après 2 ans, t'as les droits. Il y a des numéros qui ont été captés dans ce spectacle-là, télé, mais qui sont plus trouvables nulle part. Puis qui sont dans ce spectacle-là. Puis j'ai la chance à les laisser vivre d'eux-mêmes, que ce soit une œuvre d'art, que ce soit sur YouTube, que le monde peut aller consommer quand ils veulent, ou pas consommer, ou détester, ou... Puis j'aimerais ça trouver une manière d'en parler dans la présentation de ce projet-là, que il y a un problème de société, c'est... Il y a... L'ensemble des galoches pourries n'est pas trouvable sur YouTube.
Mm-hmm.
L'ensemble des galas comédiens, l'ensemble des one-man shows n'est pas trouvable nulle part. Puis il y a beaucoup d'argent du gouvernement qui sont là pour faire vivre l'art. Puis l'art disparaît, ça n'a aucun sens.
Mais c'est vrai parce que moi j'avais vu tes passages par exemple dans le prochain stand-up. Et j'ai voulu les revoir. En fait, ça me prend un abonnement que je n'ai pas pour une chaîne télé que je ne regarderai jamais.
C'est ça.
Même s'ils font des programmes que j'aime bien, mais j'ai pas d'abonnement télé.
Puis tu regardes à la fin du générique, c'est payé par le SODEC, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada. Moi, j'étais payé 600$ pour ce numéro-là. Puis le poste de télé fait de l'argent, le producteur fait de l'argent, le diffuseur fait encore de l'argent. C'est comme, il y a rien qui marche.
Ok. Mais j'ai trop hâte qu'il soit sur YouTube. Moi, tous les humoristes qui mettent des spectacles disponibles sur YouTube, je les adore. Parce que moi, je suis un gros fan d'humour, mais un gros fan de captation aussi.
Mm-hmm.
Donc pour moi, un spectacle qui est disponible, c'est un bonheur. Par exemple, il y a Kian Kojandi qui a mis son spectacle complet Pulsion sur YouTube. bah, je l'ai regardé 10 fois. Mais il est sur YouTube, quoi. C'est trop cool. Il y a plein d'autres spectacles. Et c'est à chaque fois qu'un humoriste le met sur YouTube, je mets un commentaire de merci de l'avoir mis, parce que quand t'es fan d'humour, c'est le meilleur truc.
Puis Martin Pirzolo, t'es un des pionniers là-dessus. Il a sauvé les apparences, c'est un spectacle de 12-13 ans, je pense, que j'ai regardé 10 fois moi aussi, parce que c'était le seul qui était disponible sur YouTube. Un spectacle d'humoriste québécois qui n'était pas en DVD, qui était sur YouTube, c'était très innovant, très innovateur à l'époque.
Ouais. Ben moi, les shows, par exemple, à Juste pour rire, c'est un inconnu qui a remis un sketch sur YouTube et qui fait que t'as pu le voir, quoi. Ouais. Et j'adore cette personne de l'avoir mis.
Mais malheureusement, les humoristes au Québec sont... T'en as, mettons, 40 qui font beaucoup d'argent, mais la part des humoristes font pas beaucoup d'argent. Puis faire une captation, c'est 5 à 10 000 $.
OK, ouais.
Fait que tu payes de ta poche pour mettre gratuitement sur YouTube. Ouais. Ouch, tu sais.
Ouais.
C'est un choix de carrière, c'est un choix de vie de vouloir que ton art reste, mais je comprends pas pourquoi les postes de théâtre ont des subventions, puis que, mettons, un humoriste prépare avoir justement, genre, une subvention pour la captation, même pas du profit. Genre, devrait avoir 4 caméras gratuites, juste pour qui prennent chercher en location, n'importe quoi. Genre, si t'as l'intention de capter un spectacle puis de le mettre sur YouTube, il devrait avoir des caméras gratuites qui traînent au gouvernement du Québec. Je sais pas c'est quoi la solution, mais il devrait avoir de quoi.
Ok. Est-ce que t'as d'autres projets en préparation dont j'aurais pas la connaissance et dont tu pourrais ou voudrais parler?
Je ne peux pas en parler.
Ok.
Mais.
Je vais le faire quand même.
Je pense que dans ma vie, malheureusement, en sortant de l'école de l'humour, j'ai travaillé beaucoup sur des projets d'amis. J'ai écrit pour beaucoup de monde. Puis là, je suis tombé en amour un peu avec le stand-up. Puis mon stand-up, particulièrement à moi. Pas que je l'aimais pas avant, mais j'ai du fun à écrire. Fait que de me donner le défi de peut-être écrire un spectacle d'une heure par année pendant 5-6 ans à la Carlin, à la Louis, à la Dux & Hope, à la ce que mes humoristes font, puis de laisser un leg de une dizaine de spectacles en 10 ans serait un peu mon objectif là, du moment.
Ben, j'aime beaucoup l'idée. Yassine Bellous fait ça en France. Il a un spectacle qui s'appelle 2021. Qui est disponible, je pense, sur Comédie Plus, pour les Français qui écouteront. Et cette année-ci, il fait un autre spectacle qui s'appelle 2022. Et en fait, il veut faire aussi un spectacle tous les ans. Mais ça s'appellera 2021, 2022, 2023.
Mais est-ce qu'en 2022, il présente 2021?
C'est pas vraiment un show sur l'année, c'est le show de cette année, quoi. Donc, il fait pas un truc sur l'actualité de 2021, mais son spectacle s'appelle 2021 parce qu'il l'a fait en 2021.
Parfait, ok, je vois.
Comme Yassine Bellous, c'est quelqu'un qui fait de l'humour très absurde. Bah, il y a cet teinté un peu de la période, mais c'est pas de l'actualité, donc c'est juste cette année-là. Mm-hmm. Et en fait, il fait un spectacle tous les ans comme ça, et le 2021 est vraiment drôle, mais moi, je suis très client de Yassine Bellous, je sais pas si tu...
J'adore l'être humain en tant que tel.
Oui, en plus.
Et son humour aussi.
Ouais. Bah déjà, c'est quelqu'un que quand tu le rencontres, tu l'aimes encore plus qu'avant.
Il y a son documentaire qui est fait sur l'humour.
Oui.
Puis je pense que je dis 3 phrases dedans.
Tu passes dedans. Oui.
Et je suis comme. Il y a plein de gens qui ont dit yo, tu réussis dans la vie, t'es sur Netflix. Je suis comme. Honnêtement, j'ai pas été payé pour ça. Puis ça a rien changé à ma carrière, mais c'est fucking cool grâce à ce gars-là. Je suis sur Netflix à l'international. Genre, c'est. Oui. C'est magique, on voit le bordel, on voit plein d'amis à moi, c'est beau ce qu'il a fait pour l'humour là.
À fond, mais t'es quand même l'invité pour le Québec et tu passes dans le même documentaire que Bill Burr.
Puis comment il s'appelle, non il l'a pas eu finalement, celui qui dit America's Number One. Il est dans le documentaire ou il est pas?
Judah Friedlander?
Ouais.
Je pense qu'il est dedans, mais je ne sais plus, ça fait un moment que je l'ai plus revu.
Je suis un gros fan de Judah Friedlander, fait que d'être dans le même documentaire c'est...
C'est sympa. T'es aussi dans le même documentaire que Gad Elmaleh.
Ah.
Notre ambiance.
Mais pour moi, tu sais, Gad, c'est du passé. Puis,
oui.
Il y a eu le gros débat, il y a eu le Copy Comics, puis tout ça. Puis je pense qu'en France, ça a beaucoup évolué. Les stand-up sont vraiment beaucoup plus... Des voleurs, je pense qu'il y en a plus ou quasiment plus, ou c'est très mal vu. Ou, je suis pas là-bas en plein, mais je sais qu'il y a eu une grosse évolution là-dessus. Puis...
Mais c'est très mal vu au sein des humoristes. La majorité du public s'en fout.
Ouais, c'est ça.
Ce qui est
déjà
un peu dommage.
Je pense qu'il faut... Pour évoluer dans un milieu, il faut que tu sois respecté ton industrie. Fait que tu sais, il y a quelque chose de beau qui se passe. Puis, à quelque part, si Gad avait pas volé et qu'il s'était pas devenu une star internationale, le monde volerait peut-être encore aujourd'hui.
Mm-hmm.
Fait que tu sais, est-ce qu'il a aidé le milieu? Tu sais, je serais pas jusque-là. Tu sais, comme cette chicane-là de Gad, je suis comme, hey, on peut-tu passer à d'autres choses? Puis, tu sais, écrire des nouvelles jokes puis s'amuser avec ça. Là,
c'est ça.
Mais c'est tellement un milieu qui est stressant puis qui est rushant. Alors, peux-tu oublier les chicanes puis avancer? Là?
Ouais. Ce que je lui reconnaîtrai toujours, c'est qu'il a donné envie à tellement d'humoristes.
Ouais.
Genre, s'il n'y a pas Gad Elmaleh, t'as pas Roman Frécinet, t'as pas plein d'autres humoristes qui ont commencé avec lui, t'as pas moi. C'est pas le même niveau, mais ça,
mais
c'est
moi,
un humoriste qui m'a donné envie.
Puis pour qu'un Québécois se lance avec un DVD de Gad entre les mains, c'est que t'es huge. Là.
Ouais,
t'es
c'était huge.
Huge.
Ouais. Mais je pense qu'on est revenu sur ton actualité du moment.
Ouais.
Et dans le podcast, maintenant, j'aime remonter le temps et on va revenir sur ton parcours. Tu es né le 13 septembre 1987 à Montréal. Est-ce que, enfant, t'étais déjà quelqu'un de drôle ou pas spécialement?
Non. J'étais con. Mais non, j'étais pas con. Je pense que j'ai toujours été un introverti, puis maladroit socialement. Puis je m'en rendais compte, là, souvent rendu à la maison, je suis comme, ah, pourquoi j'ai pas dit ça, puis, fait que je pense que j'ai un mind comique qui s'est développé de suranalyse des situations, qu'est-ce que j'aurais pu dire à place, au milieu des fois que j'ai eu l'air stupide. Très jeune, j'ai juste un mind-là de suranalyser des situations. Puis au secondaire, j'étais le gars qui était gêné de dire une niaiserie, c'est qu'il disait à son ami qui parlait fort que lui disait niaiserie, puis lui, il avait l'air cool. Mais de mon plus jeune âge, j'étais impressionné par les grands orateurs, autant les dictateurs que les stand-up. Et pour moi, il y a quelque chose de tellement impressionnant de voir quelqu'un driver une foule. C'est, je trouve ça beau. Il y a quelque chose que je trouve magnifique là-dedans. Puis j'écoutais des grands discours de grands orateurs, autant québécois qu'international, de toutes les époques. Ça m'a toujours impressionné. Et j'écoutais beaucoup des humoristes. Puis pour moi, il y avait quelqu'un qui allait changer le monde, c'était par un discours qui soit humoristique ou pas.
Okay.
Ça m'a toujours impressionné, puis je suis devenu drôle, je pense, par le reste du secondaire, un peu me faire intimider, taquiner, puis moi j'ai toujours été petit, fait que tu sais, il y avait beaucoup de niaisage par rapport à ça. Je suis devenu cool en secondaire 3, 4, 5, mais les blessures étaient déjà faites en secondaire 1, 2, fait que je suis devenu drôle en secondaire 1, 2, puis après ça... ma répartie a été restée sur le fait que je me suis toujours plein du monde plus vieux que moi à cause du sport extrême. Fait que d'avoir de la répartie, c'était comme j'avais pas le choix parce que j'étais le plus petit et le plus faible de la gang.
Ok, donc l'humour en moyen de défense.
Ouais.
T'es pas le premier à en parler dans le podcast.
Je pense que c'est un peu la base de tous les humoristes.
Hein. Beaucoup, oui. C'est limite quand tu parles avec des humoristes, tu dis « Ah, t'as eu une enfance où personne se moquait de toi, tout le monde te regarde genre « Mais comment t'es arrivé là ?»
Ouais, c'est quoi ton problème ? Qu'est-ce que tu fais ici ? T'as pas la place. Hein.
C'est ça. Et est-ce que ton entourage, c'était des gens drôles? T'as un frère? T'as un petit frère?
Mon frère a toujours été showman.
Ok.
Toujours pris de la place. Il était vraiment bon en... Il a fait de l'improvisation secondaire. Il était bon. C'est un gars que tout le monde voulait être son ami. Il était bon socialement. Il y avait de la jalousie de ma part de ça. Puis c'est bizarre d'être jaloux de ton petit frère. Par rapport à des skills. Tu sais, quand t'es plus vieux, t'es supposé être meilleur que lui dans tout, mais... plus jeune, d'être un peu jaloux de lui. Qu'il était plus charismatique que drôle, mais il était drôle.
Okay, ouais.
Mon père était dad joke, là, genre toujours la même blague plate, mais ça me faisait rire. Le rire m'a toujours impressionné. Mais je n'ai pas d'une famille de farceurs tant que ça, ou de drôles tant que ça.
Ok. Et ta mère, elle aime l'humour ou...
Ma mère... Mes parents m'ont jamais vu voir un spectacle d'humour de ma vie.
Ok.
J'ai vraiment... je me rappelle la première fois que j'ai vu un spectacle d'humour dans un bar, puis ça a changé ma vie. Ça existe. Pourquoi j'étais pas au courant avant?
Ok.
Tu sais, j'ai vu les spectacles à la télé, mais ça semblait tellement inaccessible. Tu sais, j'ai pas une famille aisée. Fait que payer 150$ pour aller voir un gala juste pour rire, c'était comme... Je me rappelle que mes parents, un jour, se sont payés des billets pour aller voir Lise Dion, puis il y avait pas beaucoup d'argent, fait qu'ils étaient assis au troisième balcon, puis en fait, c'est bien plat. Elle est en bas, elle est toute petite. Tu peux la regarder à la TV, hein, madame. Là, on va comprendre, c'est dur pour moi. Mm. Fait que, je me rappelle que mes parents étaient déçus de leur expérience de se payer la sortie d'avoir un spectacle du monde.
OK.
Fait que j'ai toujours consommé à la télé, puis j'ai jamais vu comme un art accessible, que c'était possible que j'en fasse, ou que c'était possible que j'en consomme jusqu'à temps que par hasard, même dans une soirée, dans un bar. Puis j'ai fait, waouh.
OK. Mais tu regardais beaucoup d'humoristes à la télévision?
Ouais. Yvon Deschamps, pour moi, était un idole incroyable.
Ok. Donc pour les Français et Belges qui écoutent, Yvon Deschamps, c'est le plus gros humoriste.
C'est le George Carlin du Québec.
Ouais.
Fait que autant qu'il a fait partie de l'évolution de l'art, qu'il a amené un message social très important dans ces années-là.
Ok. Mais moi, je ne connais pas beaucoup. J'ai vu certains numéros que j'ai trouvé bons. Mais j'ai pas tout l'affect qu'il y a avec le personnage.
Ouais.
Mais l'épisode de sous-écoute avec lui est une merveille.
Ouais, c'était incroyable. Monsieur de 80 quelques années punché, là.
Ouais.
Oh, son rire est contagieux, puis...
Mais je crois que c'est Bellefeuille qui est dans le public et qui lui pose une question, et on, je sais pas, on dirait un enfant qui pose une question à une idole. Et tout est mignon et beau et intéressant, alors que moi, je connais pas
l'importance
du personnage. Et en l'écoutant, je me suis dit waouh, j'ai manqué un truc, tu vois. C'est assez fou.
C'est tellement quelque chose, c'est Coluche. Mm-hmm. C'est dans l'importance
pour la France, ouais.
Pour l'Europe,
oui. Il y a énormément d'humoristes qui même maintenant vont citer Coluche et des proches pour l'influence qu'ils ont eue et qu'ils ont encore en humour. Maintenant, ce qui est chiant, c'est que quand on entend ces deux noms là c'est pour dire avant on pouvait faire des choses qu'on peut plus faire maintenant.
Ça, c'est tellement pas vrai. Puis, écoute, il y a des affaires, ils vont des chats qui sont censurés, que le monde, ils ont un flux d'internet qui existe. Il s'est fait taper ses doigts, ils vont comme Mike s'est fait taper ses doigts, puis tout le monde dit qu'avant on pouvait tout faire, mais c'est pas vrai, c'est que les barrières sont différentes, puis il y a des affaires qu'on peut dire maintenant qui se disaient pas.
Oui, puis on oublie aussi que eux-mêmes ont été censurés, eux-mêmes ont eu des gens, ils vont des gens le disaient, il y avait des gens qui partaient pendant son spectacle. Quoi. Je trouvais ça incroyable à écouter.
Tu sais, imagine là, il y a nous autres, pourquoi j'ai un blanc? Il y a une humoriste trans qui est montée sur la scène du Gang Show dernièrement, qui a tout pété, là. Tout pété. Et les commentaires YouTube, pas un commentaire transphobe. Des années, ils vont des chants. Ça aurait pas pu. Mm-hmm. Fait que, oui, on pouvait peut-être dire plus, mais on pouvait pas tout dire. Parler d'homosexualité, on pouvait pas. Parler de drogue, on pouvait pas. Parler de. Le monde, c'était des sujets excessivement tabous. Maintenant, tu racontes un trip de poudre. Le monde va t'écouter. Ils vont te juger parce que c'est loser de faire de la poudre, selon moi, mais il y a une ouverture qui est différente. Il y a des barrières qui sont différentes. Mais je pense pas que c'est vrai qu'on peut plus tout dire. Je pense que par contre, on se fait plus taper sur les doigts rapidement parce que l'Internet existe. Mm-hmm. Mais je pense que.
C'est juste les gens que ça fâche, tu les entends. Qu'avant, tu ne savais pas. Est-ce que toi, tu as fait de la scène, du théâtre, de l'improvisation quand tu étais adolescent, ou ça t'a jamais attiré
Ça m'attirait, mais j'ai pas eu les opportunités, j'ai pas eu l'encadrement. La scène m'a attiré, mais mettons, je m'appelle, j'étais voir ma prof de troisième année. Puis j'ai dit, j'aimerais ça faire un spectacle. Puis elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Puis je suis comme, chanter une chanson. Elle fait, OK, ben tu vas chanter une chanson à la remise des prix de fin d'année. Puis là, on est dans le gymnase, ils ont parti une cassette, j'ai chanté une tune. Puis moi, en fait, pourquoi qu'ils chantent? C'est quoi le style de rapport? Une tune de Kevin Parent, tu sais, comme que mon père aimait, que moi j'aimais, mais qu'il n'aimait pas une des meilleures tunes de l'album. Fait que personne ne la connaît. C'est juste weird que je vienne entre deux professeurs qui aimaient des prix, chanter une tune que tout le monde se calisse. Fait que ça m'a pas donné envie de recontinuer, puis je chantais fucking mal. Mais j'avais le guts de, tu sais, faut être un peu weird pour avoir un professeur, je veux faire un spectacle. Quand il n'y a pas de spectacle, tu sais, que ça va être ça. J'ai joué le Petit Prince au primaire, mais je comprenais pas réciter les textes de quelqu'un d'autre. Il n'y avait pas de rire. Moi, je voulais faire rire le monde. J'ai réussi à faire rire une fois. J'étais content. Le prof était fâché. J'étais comme, le monde a eu du bonheur. Pourquoi t'es fâché? Au secondaire, j'ai animé une ou deux remises de prix. Mais encore une fois, c'est du cabotinage. Mm-hmm. Tu sais, je voulais juste faire rire le monde. Tu sais, comme... Il y a une remise de prix où ce que en dernière année en secondaire 5 où ce que tout le monde une rose et la remettent à la personne qui a été le plus importante dans leur parcours scolaire. Fait que t'as les mamans, t'as les professeurs qui sont là, puis tous les élèves vont remettre une rose. Okay. Nous, on était la première année que c'était des roses parce qu'avant c'était des chandelles. Il y a quelque chose de très beau dans tout le monde une chandelle, puis c'est remettre la flamme que t'as fait vivre avant moi pour. Puis là, le service d'incendie voulait pas.
Okay.
Fait que c'est devenu des roses. Puis nous autres, en animant le spectacle, on trouvait ça très drôle d'expliquer que c'était dangereux. Exemple, j'ai une lampe torche ici. Si je l'allume, puis là, le chapeau de mon ami pogné en feu. Puis tout est stagé, mais genre, on s'est fait engueuler parce qu'on a fait pogner le feu sur scène. Puis c'était ça que, tu sais, puis genre, on se trouvait drôle. Puis tu sais, il y a quelque chose de tellement... On explique qu'on s'est rendu des roses à la place des chandelles parce que c'est dangereux de mettre le feu et on calisse le feu. C'est du génie, selon moi. Bon, on se fait chicaner, fait que tu sais. Après ça, j'ai fait cégep en spectacle avec un numéro du monde.
Ah, tu mettais des clous dans ton nez,
je crois. Je me suis cloué un clou dans le nez, puis je pensais que c'était drôle, cette idée-là. Mais ça,
c'était le clou du spectacle, je crois.
Ouais,
que c'est
ça va être complètement marteau, ça va être le clou du spectacle. Je vais clouer un clou dans le nez, c'était mauvais, mais. Puis mes amis étaient gentils avec moi, fait qu'ils me disaient pas que c'était mauvais, tu sais. Ils me trouvaient bizarre. Sûrement que s'il y a du monde de mon secondaire cégep qui écoute ça, qui sont pourquoi vous me l'avez pas dit? Mais c'est ça, t'es pas. Puis j'ai essayé de faire de l'impro, une session cégep, puis je l'ai juste punché. Je suis créer une histoire. Le monde sont là. Ils veulent. À un moment donné, le BMX a trop de place dans ma vie, fait que. Mais j'ai tellement. j'ai toujours voulu être sur une scène de niaiserie, mais j'ai jamais pensé que c'était possible d'en faire un métier jusqu'à temps que je vois du monde que c'était leur métier en vrai.
Ok, ouais.
Puis, mais ça, le BMX, c'était rendu ma vie à ce temps-là, fait que c'était. J'allais pas lâcher le BMX pour faire des blagues, puis c'était pas une possibilité.
Ah bah, tu me fais une transition toute faite parce que t'as découvert le BMX à la télévision, ouais. T'as acheté ton premier BMX au Canadian Tire,
ouais,
avec ton père, ouais. Le BMX qui est devenu vraiment ta passion, ouais. T'expliquais même dans Sous-écoute et dans d'autres podcasts que tu sortais parfois en douce la nuit pour aller dans un skatepark et t'entraîner,
ouais.
Qu'est-ce qui a fait que c'était ce sport en particulier qui t'a passionné et que tu as envie de faire toi?
Je sais pas si c'est le sport qui m'a formé ou c'est moi qui étais déjà formé qui a aimé le sport, le fait que je pense que je suis tête de cochon. Tout ce qui est coach, tout ce qui est être dans une équipe, tout ce qui est... j'aime pas ça me faire dire quoi faire. J'aime pas ça qu'on perde à cause des gens ou gagner à cause des gens, puis que c'était pas... Parce que c'est pas de ma... Je peux être très mauvais pour mon équipe gagne.
Okay,
il y a une absurdité là-dedans que j'aime... Tu sais, j'ai joué au soccer quand j'étais jeune. Je comprends pas. J'aime pas ça. C'est pas... Puis il y a une mentalité dans le sport extrême qui était de... pousser le sport plus loin, faire ce qui se fait pas, faire, essayer des trucs que t'es pas capable d'améliorer, puis quelque chose de tellement beau dans ce sport-là, parce que si t'es pas bon, c'est de ta faute, si t'es bon, c'est de ta faute. C'est beau, ça t'aide à gagner la confiance en toi, tu réussis quelque chose que t'étais pas capable le mois passé ou la veille, puis c'est grâce à toi que t'es capable. Il y a de la liberté dans ce sport-là, il y a pas d'uniforme, tu t'es en jeans, t'es en t-shirt, c'est très pur, c'est très rare. Il y a quelque chose que j'aimais là-dedans de passer des après-midi dans un skatepark parce qu'il y a des graffitis du monde de tous les calibres aussi. Il y avait quelque chose de tellement humain dans les plus vieux m'aidaient, puis moi j'aidais les plus jeunes encore de non, c'est pas comme ça que tu fais ça, assez ça de même, mets ton poids là, regarde par là, t'as-tu assez de le faire de même. Il y a quelque chose de. Un esprit de communauté qui était très fort, que j'adorais, que je trouvais très. C'est un environnement sain qui a l'air très punk, mais que des fois quelque chose de punk peut être très sain dans l'évolution d'un jeune adolescent.
Mais t'as l'air toujours autant passionné.
Ah, c'est les plus belles années de ma vie.
Mais j'ai entendu que t'avais aussi travaillé dès l'adolescence dans les bars pour pouvoir payer tes, ouais, déplacements pour les compétitions de BMX. Et qu'est-ce qui fait que t'aimes autant les bars? Parce que c'est toujours quelque chose qui a fait partie un peu de ta vie à partir du moment où t'as commencé à travailler dedans.
Ah, un problème d'alcool.
Voilà.
Je pense qu'à 34 années, je suis plus capable de le dire. J'ai toujours aimé l'alcool, j'ai toujours aimé boire. Là, je suis rendu plus vieux, je suis beaucoup plus calme qu'avant. Mais j'ai toujours 14-15 ans, j'aimais boire pour faire le party. Il y a eu un ou deux films qui m'ont tellement marqué. Le film Cocktail avec Tom Cruise, Une nuit Roxbury. Il y a des films de bar que j'étais comme, un jour je vais être barman. Puis surtout dans les films, ils te le vendent comme, tu fais de l'argent, tu pognes avec les filles. Puis moi j'étais un nerd, fait que pognes avec les filles, puis c'était pas facile. Tu sais, j'ai jamais été tant pogné avec les filles. Fait que travailler dans les bars, faire de l'argent en pas beaucoup de temps parce que je suis paresseux. La vie de nuit, le côté punk, le côté rebelle du mode de nuit est quelque chose que j'ai toujours trouvé magnifique. Pour moi, il y a quelque chose dans la conformité que j'ai toujours trouvé triste dans le lundi, vendredi 9 à 5, puis les bars étaient un peu anti ça. Tu rencontres plein de monde tellement... Les bars, vu que c'est de l'argent facile, à l'époque, on faisait plus d'argent dans les bars, t'avais plein d'artistes qui travaillaient dans les bars, des musiciens, du monde qui trippait sur des infographes, des graphistes, des peintres, des musiciens, du monde, un ami qui est graffeur, qui aujourd'hui, il gagne sa vie de graffiti, puis il a 38-39 ans, tu sais. Il était boss boy, on ramassait du vomi dans un bar, tu sais. C'était des belles années, c'est du monde intéressant, le fun. J'ai toujours adoré ce milieu-là, de la nuit, de fuck la société. J'ai toujours aimé ça. Puis ça, la nuit, je pense à ma carrière sport extrême, parce que je voulais être à l'école, je voulais travailler, je voulais faire du BMX. Je faisais trop d'affaires en même temps, j'ai toujours trop fait d'affaires en même temps, mais il y a de quoi que j'aime dans les bars. Puis aussi, les bars sont un des derniers bastions de l'entrepreneuriat local. Maintenant, tous les dépanneurs, c'est des chaînes. Tous les restaurants, c'est des chaînes. À part la restauration et les bars, c'est des derniers bastions de... Tu veux partir une entreprise, café, bar, restaurant, c'est les seules entreprises que tu peux partir. Tu sais, je parle dans le commerce de détail, c'est que des chaînes.
Oui, c'est très difficile d'ouvrir un magasin de vêtements.
Un magasin de vêtements, un magasin de sport, un magasin de souliers, un magasin de plomberie à la limite, c'est rendu, c'est tout Home Depot, c'est toutes des grandes surfaces. Le bar et la restauration, t'as des chaînes, mais les bars sont la seule affaire que il y a pas de chaîne. Il y a peut-être la petite grenouille puis le shaker que on 8 endroits, mais le bar est l'âme d'un quartier. Il y a quelque chose dans dans l'historique des bars aussi, qui est vraiment le fun à voir, c'est l'endroit où, que, dans le temps des westerns, c'était la seule place qui savait lire, c'était le barman. C'est lui qui lisait le courrier aux gens du village. T'sais. Les gars de la shop allaient au bar oublier leur vie de marde, boire 4-5 pintes, ben, plus que ça, mais tu sais, brosser le vendredi soir pour oublier leur vie de d'ouvrier. Pour moi, le bar est tabou, mais est un élément de société tellement important. Puis de faire partie de ce côté-là, grunge, du côté du dark side of the society, il y a quelque chose que j'aimais d'être dans cet univers-là.
Mais franchement, tu donnes envie d'avoir son bar, quoi. Ouais, quand tu parles de bar.
C'est un rêve très jeune d'avoir un bar, puis j'ai adoré l'expérience.
Ok. À 17 ans, t'as eu ton premier gros contrat en BMX.
Ouais.
T'es parti vivre un an en Chine, faire des shows de BMX dans un parc d'attractions dans la banlieue de Hong Kong. Puis t'es revenu à Montréal, t'es allé à l'université, tu as appris le mandarin.
Ouais.
Tu gagnais bien ta vie là-bas, parce que t'avais un salaire pour la Chine qui était important.
Ouais.
Est-ce que t'es nostalgique de cette période de ta vie? Tu disais que c'était la meilleure période de ta vie?
Ah, c'était tellement con comme période. Ce que j'ai vécu là, pas grand monde va avoir la chance de vivre ça, c'est... Il enchaîne un racisme qui est positif, fait que t'es blanc, t'es cool partout. Peu importe, tu peux être comptable, t'es cool. Tu peux être laid, t'es cool. Tu peux être niaiseux, t'es cool. T'es juste cool partout si tu veux. T'as de l'argent parce que là-bas, tout coûte rien. Puis, je faisais le sport que j'aimais tous les jours. Puis, je t'ai payé pour. C'est niaiseux. C'est niaiseux. C'est le mot qui vient en tête. C'est trop facile. À un point que... C'est plus le fun. C'est trop facile. Tu sais, je savais que c'était pas une vie que je peux faire du BMX jusqu'à 50 ans, mais c'est pas la vraie vie. Je suis pas en train de m'impliquer dans une communauté, je suis pas en train d'aider personne, je suis pas en train de... C'est du fast-food. Tout est facile. Je suis pas en train de m'améliorer comme être humain, je suis pas en train de... d'apprendre de nouvelles affaires. J'ai besoin de quelque chose. Je l'achète. Je suis pas en train d'apprendre à construire. C'était trop facile, mais en même temps, à 17 ans, c'est le fun dans le tabarnak de vivre de quoi de facile, tu sais.
En plus de vivre de ta passion.
Ah oui, vivre de ma passion, BMX, de m'amuser, de boire tous les soirs, de la bière coûtait 15 cents, tu sais, c'était... J'ai trippé, j'ai eu du fun, mais je suis revenu au Québec la première fois après un an là-bas, puis dans ma tête, je venais 3 semaines au Québec, je retournais là-bas parce que c'était le party, puis c'était facile, puis là... Je voyais des amis qui finissaient leur DEP au Québec. Un DEP, c'est un cours, mettons, d'un an pour devenir bricoleur ou plombier.
Okay.
Puis ils avaient déjà fini leur cours, puis là, ils magasinaient des maisons, commençaient à fonder des familles. Puis là, j'étais comme, ouais, moi, je bois, puis je fais du bicycle pour enfants. Là. Tu sais, c'est bizarre comme mode de vie. Puis je suis comme, je pense que je devrais revenir au Québec, continuer mes études, avoir un plan B, puis faire du BMX encore, mais c'est pas la vraie vie là-bas. C'est pas la vraie vie. Fait que j'ai freaké out, je leur ai dit, hey, j'en reviendrai pas, je vais rester au Québec. Puis je me suis inscrit à l'école. Puis je suis retourné à 21 ans avec des idées plus ambitieuses de comme apprendre vraiment mieux le mandarin. J'allais continuer à l'université, de peut-être partir une business là-bas. Finalement, on m'a rappelé pour un autre job à Montréal. Fait que je suis revenu à Montréal la deuxième fois. Mais ça a été des belles années, la Chine.
OK. Mais après, tu rentres à Montréal car on te propose de gérer le TAS, qui était le plus grand skatepark intérieur du Canada à l'époque.
Ouais.
Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Et tu avais 23 ans, 24 ans. Et après avoir fait plus d'une vingtaine de commotions dans ta carrière, bah, tu arrêtes les compétitions de BMX sur les conseils des médecins. J'ai entendu que ça a été assez dur pour toi d'arrêter car bah, c'est ta passion depuis des années. En plus, tu étais bon dans ce que tu faisais.
En fait, pour les Européens qui écoutent le podcast, c'est vos joueurs de foot qui sont pas assez bons pour être dans vos ligues qui viennent jouer à l'Impact de Montréal. c'est ça le calibre que j'avais. C'est les joueurs de l'Impact de Montréal.
Mais si tu joues avec un joueur de l'Impact de Montréal au foot, tu te dis je suis vraiment nul. Quoi. Et
ouais.
C'est impressionnant le niveau qu'il a. Donc imagine le haut du panier. Quoi. Mais... ça, je suppose que ça a été assez dur pour toi de travailler...
On en parle, j'ai la larme à l'œil, pour être honnête.
Ok, on peut en parler.
Je suis capable d'en parler, mais c'est... Tu sais, j'avais 23 ans, le BMX a été une manière de me forger une personnalité, de me forger des amitiés, de me forger un but dans la vie. Puis là, on m'enlevait tout ça. C'était comme... C'est qui Charles? Parce que Charles Deschamps a toujours été le gars de BMX. Tu sais, comme je rentrais quelque part, c'est le gars de BMX. Fait que c'était mon métier, c'était ma passion, c'était ma personnalité, c'était tout. Fait que là, on m'enlève ça, c'est je suis qui? Mm. Qu'est-ce que je calisse de ma vie? Qu'est-ce que je suis quoi? C'est quoi que je veux faire? C'est quoi que je représente? C'est quoi que je suis? Ça a été une grosse, grosse claque d'en face que j'ai noyé dans l'alcool, puis dans le travail, puis dans dans plein de choses.
Ok, mais comment t'as fait pour dépasser ça? Ou alors c'est encore quelque chose qui te mine, qui te rend un peu triste si tu...
Ah non, mais là, moi j'ai... Tu sais, dans la vie, c'est super rare des gens qui réalisent leurs rêves. Mm-hmm. Moi, je l'ai fait avec le BMX, puis j'étais à la limite pas suicidaire, mais très kamikaze. J'ai toujours été passionné, pas le mot, mais très impressionné par les grands entrepreneurs de ce monde. Mm-hmm. Puis... vu que la seule autre affaire que je connaissais un peu, c'était les bars, je dis, je vais ouvrir un bar. C'était vraiment con, là, genre, j'avais le trois quarts d'une technique au collège sur la gestion de commerce, mais j'étais pas prête à... Je connaissais rien, j'étais pas bon, j'avais pas d'argent. Puis je me suis dit, je vais faire ça, puis je ferai faillite. Puis ça va être une belle anecdote. Dans le sens que tu as le droit de faire faillite à 23 ans, 24 ans, mm-hmm. puis tu as le temps de te remettre. À 40 ans avec des enfants... C'est plus tough de faire un move de cave. Puis c'est vraiment, je vais faire un move de cave. Puis j'allais pas bien, il me fallait juste de quoi, ou mettre de l'énergie. Puis j'étais comme, ça, dépenser de l'énergie, en lançant un bar, ça marchera pas. Tu sais, j'étais vraiment, il y avait une goutte d'espoir que ça marche. Puis ça a marché. Puis là, j'étais fuck. Pour de vrai, c'était pas supposé de marcher, puis ça a marché. Les bars m'ont sauvé la vie, là.
Ok, ben on y arrive, donc tu travailles dans les bars, après t'as géré le Diable Vert, ouais. Tu démissionnes un jour où t'as trop bu parce que t'es pas d'accord avec les décisions des propriétaires, tout ça, tu fais un mois sans travail, puis un jour tu passes devant le Jockey, qui est un bar dans ton quartier de Rosemont, tu vois des affiches avec indiqué « alloué », tu rentres dans le bar, demandes si le bar est alloué, et en fait c'était uniquement les appartements du dessus,
ouais.
Mais tu parles au barman qui te met en contact avec le propriétaire, en discutant tu finis par lui proposer de racheter le bar, et tu fais même une offre sans avoir les moyens de le faire, parce que t'as 2000$ sur ton compte en banque. Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris?
Mais c'est ça que je te disais, genre, j'étais le kamikaze, j'étais comme, c'est all-in, hein, je vais trouver l'argent. j'ai trouvé l'argent.
C'est tellement un truc que je ne comprends pas.
Mais moi, personne ne le comprend, puis même moi, genre, tu le lis, puis je suis comme, j'étais bien d'épais. Tu sais, faudrait que quelqu'un ait filmé ce moment-là de comme... Le gars me dit, ben, combien tu veux m'offrir? Je suis comme, ben, toi, combien tu veux? Je sais pas combien ça vaut, Chris, là. Là, il me dit un chiffre, je suis comme, je t'offre 5000 de moins, pis je sais pas si c'est un bon deal, je connais rien! Pis le gars me dit, ok, pis je suis comme, écoute, par contre, ce qui m'aiderait, c'est si t'es à l'aise, c'est que je te donne à la signature, je sais pas s'ils vont être signature. Je sais même pas comment ça marche. Parce qu'à la signature, je vais te donner le 3 quarts pis le quart dans un an. Puis comme, ok, tu sais. Puis je pense que j'ai fait un dépôt. Je sais, mais tu sais, ça tout s'est passé vite. J'ai appelé un de mes amis, puis je suis comme, yo, tu sais, on a parlé un jour qu'on va ouvrir un bar, ben là, c'est là. Puis il était assez calme pour embarquer avec moi. Puis c'est encore un ami que j'aime à ce jour, Edwin. Aussi que je l'aime, ce gars-là.
Mais t'as aussi menti à la banque en disant que t'allais faire un voyage pour avoir.
Ouais, tu peux emprunter un prêt personnel, je pense que jusqu'à 13 000, jusqu'à 15 000 $ en tout cas, genre. Puis j'ai emprunté 13 000. Puis là, tu sais, c'est. Au-dessus de 15 000, il faut que tu rencontres quelqu'un au financement, mais 13 000, ça se fait en ligne, genre.
OK.
Fait que là, en ligne, j'ai marqué, c'est ça, c'est pour un voyage. Mais moi, j'avais démissionné de mon autre job, mais ça. Je l'ai pas marqué dans le document que j'ai démissionné, sinon il prenait pas d'argent si t'as pas de job. Ouais. Fait que j'ai pas marqué. C'est que j'ai menti sur. Un, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent-là? Deux, je t'aurais dit que je gagnais tant par année parce que je travaillais à tel endroit. Je travaille plus, là, y a plus de job.
Okay. C'est tellement un truc que je comprends pas parce que moi l'argent a toujours ça m'a toujours fait peur de plus en avoir. Bah par exemple, genre à venir à Montréal, je me disais il faut absolument que je trouve du boulot vite, j'espère que je vais en trouver, j'étais en panique 2 jours pour trouver du boulot parce qu'il y a une pénurie de main d'œuvre au Canada, mais j'ai vraiment une peur que j'ai, je me suis dit mais comment c'est possible d'aller voir un bar et se dire allez, je vais l'acheter.
Ah, j'étais con là, j'étais vraiment con. Je mais ça fou. Moi j'adore toute l'histoire d'entrepreneuriat de tu sais, autant le monsieur de poulet free Kentucky que c'est à 63 ans qu'il a aussi à vendre son poulet finalement, tu sais, qu'il s'est fait refuser des prêts à banque par, je pense, 50 banques. Tu sais, j'adore toute cette histoire-là. Mm. Pour moi, tu sais, j'étais. Il y avait les fantômes de cette histoire-là qui c'est comme. C'est possible quand que le monde te dise que c'est pas possible. Qui a toujours été imprégnant en dedans de moi. Le film Catch Me If You Can, avec le nom sur la de si tu y crois que t'es quelque chose. Ça, le monde peut y croire. T'sais, lui, il se fait passer pour un avocat, un médecin,
pilote d'avion.
Un pilote d'avion, tu sais. Fait que de. Puis. Fait Fait que, tu sais, il y avait comme cette vibe-là de comme. Il y a des chances que ça marche. Pour pire, ça marchera pas, puis je ferai faillite, tu sais.
Mais ça a marché.
On est tellement mal éduqués sur l'argent. Tu sais, je suis pas bon avec l'argent. Je suis un entrepreneur quand même popé, puis je suis pas bon, puis on n'est pas éduqué, on est mal, mais l'argent est quelque chose de fictif. Mm-hmm. Ça n'existe pas en réalité. Fait qu'il faut juste que tu trouves des affaires pour convaincre du monde. Tu sais, pourquoi il faut que tu prouves, faut que tu donnes un cash down quand tu vas acheter une maison? Puis après, c'est pour leur montrer que tu es capable de payer une hypothèque. Mm-hmm. Mais tu pourrais juste leur dire, regarde, ça fait 20 ans que je paye un loyer qui est plus cher que l'hypothèque. On s'entend-tu que je suis capable de payer ce montant-là par mois? Ben eux, ils sont là, ah non, ça nous stresse trop, on veut pas te prêter de l'argent. C'est fictif, l'argent, mm-hmm. Tout est mal fait. Puis je pense qu'il faut juste que tu trouves une manière de se faufiler dans ce mensonge-là qui est la vie financière, parce que c'est ça, l'argent, ça n'existe pas tant. Là. C'est une monnaie d'échange que... C'est pour remplacer le troc. Puis le troc, à la base, un salaire, c'est que tu échanges une heure contre une certaine valeur. Fait que si t'as du temps dans la vie, t'es millionnaire. On philosophe, je sais pas trop dans quoi je m'embarque, mais j'avais 2000$, j'ai ouvert un bar de 120 000. Mais j'ai mis du temps.
Ah oui, mais je pense que c'est le bon moment pour demander aux gens de s'abonner à mon Patreon, parce que l'argent c'est fictif.
L'argent c'est fictif, donnez, vous recevrez.
C'est vrai. Mais donc tu deviens propriétaire du Jockey, ouais. Pour attirer du monde, tu décides de lancer une soirée mensuelle d'humour, les lundis de l'humour au Jockey, parce que c'était très calme le lundi soir.
Ouais.
Après quelques temps, et sous les conseils de Mike Ward, vous avez déplacé la scène, Phil Roy a commencé à animer, puis ça a été Jay du Temple, c'est aujourd'hui Jay la Liberté.
Il y a eu Charles Pellerin aussi.
Charles Pellerin entre les deux.
C'est un excellent soirée, ce que j'adore.
Toi-même, tu montes sur scène pour attirer du monde dans ton bar.
C'est tellement triste. C'est triste, j'ai haï de l'avoir raconté, mais c'est tellement la vérité.
Ben, c'est ça. Mais est-ce que tu te rappelles de la toute première scène que tu as faite, et de quoi tu parlais?
Oh my God! Je pourrais pas dire c'est quoi exactement le premier numéro que j'ai fait.
Ou comment tu t'as ressenti ça, peut-être?
J'ai eu des rires. J'étais traumatisé de en spectacle.
Oui.
J'ai eu des rires, mais j'ai toujours une passion pour... une fascination pour les mots et l'écriture. Fait que c'était plus poétique que drôle, je pense. Il y avait des statements politiques cheesy, là, mauvais, là... Je pense que c'était durant le temps de la grève étudiante. J'avais quelque chose comme... quelqu'un avait été arrêté, je ne sais pas pourquoi. Puis là, j'étais comme... J'avais fait une grosse métaphore de... Le gouvernement n'a pas le droit de dire qu'on a des armes blanches quand eux, ils font des coupes à blanc, donnent des chèques en blanc à du monde qui veulent des enveloppes brunes. Puis genre... Tu sais, quelque chose de mauvais de même, là, genre... J'ai déjà écrit la blague de... On veut pas un parti bleu, on veut pas un parti rouge, on veut un parti qui est transparent. Puis genre, c'est des mauvaises blagues de même.
Alors, pour les Français qui nous écoutent, il a évolué dans l'humour.
Oh, je pense
il va venir faire des choses meilleures que ça chez vous.
Mais, rapidement, ça m'a pris du temps à comprendre c'est quoi l'art du stand-up, mais je savais puncher très tôt.
OK.
Il y a des jokes que j'ai écrits, que j'ai fait pour les auditions de l'école de l'humour, que je suis pas encore gêné de refaire. Une joke que je fais encore récemment... Ou ce que j'explique, là, une des raisons que. Un des trucs que j'ai quand que j'arrête de fumer, c'est que je vole la pompe d'asthme à ma blonde, puis je prends des pompes de la pompe d'asthme. Ça...
J'ai pas le. La pompe, quoi?
Une pompe d'asthme. Les gens qui sont asthmatiques ont une espèce de pompe comme ça.
Ok, oui, un inhalateur.
Un inhalateur. Puis je dis que ça calme mes envies de fumer, puis que ma copine est vraiment fâchée quand j'utilise ces objets d'habitude, ces affaires à elle, mais de ce temps-là, elle est juste essoufflée. Puis c'est une des premières blagues que j'ai écrites qui marche. Encore, puis qui est pas gênante à faire, mais tu sais, j'ai appris à puncher très rapidement, sans même comprendre, sans même connaître, mettons, les titres des procédures humoristiques et tout ça. Mais c'est une force que j'avais, mais crime que je comprenais pas l'essence de cet art-là, de. C'est quoi le but d'être en avant puis de raconter quelque chose? J'ai l'impression que il fallait que je sois politique, il fallait que j'aie un point, qu'il fallait que j'essaie de changer la société une blague à la fois, puis je pense que le stand-up peut changer la société, mais. Pas un 3 minutes d'un gars qui fait 6 mois qui fait ça, là, c'est ça.
Ouais, ça prend du temps.
Mais j'étais mauvais.
Mais, pendant ces scènes, on te dit quand même que tu es drôle et que tu devrais tenter les auditions à l'École nationale de l'humour.
Ouais.
Ce que tu fais, ouais. Tout en pensant que tu ne serais jamais pris.
Je ferais pas, je sois pris.
Pourquoi?
Parce que je venais d'ouvrir un bar.
Oui.
T'es pas supposé d'ouvrir un bar avec 2000$, t'es pas supposé de rentrer à l'école d'humour à temps plein 3 mois après l'ouverture du bar. Y a rien qui marche là-dedans, là. C'est pas.
T'es pas censé aussi te blesser en BMX la veille des cours.
Ouais! J'avais oublié ça, moi, j'étais avec des cicatrices, hein.
C'est ça. Et c'est là que tu te dis, mais merde, comment il sait ça?
Ouais, c'est ta première photo Instagram, genre. C'est ça. C'est ça.
C'est ça. Mais comment ça s'est passé pour toi, l'audition à l'École nationale de l'humour? Est-ce que tu te rappelles de ton numéro d'audition?
C'était justement les blagues de cigarettes. C'était... Je faisais un... écoute... Je faisais une métaphore, okay? Un parallèle entre les fumeurs au Québec et les juifs en Allemagne nazie.
OK.
Puis j'expliquais que, tu sais, avant, les deux étaient bien vus en société, on pouvait être partout, puis que de plus en plus, on se faisait tasser des endroits publics, comme les écoles, les hôpitaux, les avions, puis que maintenant, les fumeurs n'avaient plus le droit de voyager, n'avaient plus le droit de faire soigner pendant que tu fumes, n'avaient plus le droit de là. Puis là, j'étais comme, tu sais, attention, tu sais, bientôt, ils vont aller camps de travail pour les fumeurs, puis là, ils vont réparer les nids de poules avec nos poumons pleins de goudron, puis c'était... Les jokes étaient moyennes, mais le fait que j'avais un angle qui était très précis, c'est comme, ben oui, il y a trop, tu sais... L'idée était bonne, était mal exécutée, puis après ça, j'essaie de le faire en personnage Dark World. En tout cas, j'ai essayé de reprendre mon numéro d'audition en personnage avec un mot, c'était vraiment dégueulasse. Mais.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
C'est ça le numéro qu'on peut accepter, mais je pensais vraiment pas être accepté. Puis j'étais chanceux pour de vrai parce que tu fais ton audition, ils te rappellent pour une journée de stage. Puis la journée de stage, j'ai été bon dans des affaires que je suis pas bon d'habitude.
Okay.
C'est un cours d'impro, un atelier d'impro. Puis l'atelier, c'est ils mettent un drap blanc en avant. Mm-hmm. Puis tu dois jouer avec le drap pendant 3 minutes sans utiliser la parole. Puis là, c'est de l'improvisation avec un drap. Puis là, moi, j'étais comme, si j'y vais en premier, je vais utiliser toutes les idées de base.
Mm-hmm.
Fait que je vais avoir l'air d'avoir plein d'idées, mais c'est juste que c'est les premières idées que tout le monde va avoir. Mais, fait que, mettons, j'y étais en premier tout de suite. Fait que là, j'ai l'air d'un gars qui était à l'aise, qui était game de se pitcher. Oui. C'est comme,
j'ai pas peur, moi.
J'ai pas peur, mais c'était de la stratégie de, comme, je sais que j'étais à chair d'impro, puis si je passe 5e, j'aurais pas de calice d'idées, puis je vais figer. Fait que, tu sais, j'ai comme été bon en trichant un peu, en étant stratégique, tu sais.
Mm-hmm.
On m'avait beaucoup mentoré, j'étais beaucoup ami avec Phil Roy déjà à l'époque.
Qui était ton coloc déjà à ce moment-là?
Il m'avait dit, tu sais, mettons, sois pas trop lard, ils veulent pas. Tu sais, 12 comics, c'est dur à gérer. Sinon, qui essaie d'être drôle en plus, tu sais, dans les cours,
mm-hmm.
c'est rushant. Fait que, tu sais, sois drôle quand ils te demandent d'être drôle, mais essaye pas de puncher tout le temps, puis là, quand le prof parle, puis tu sais, okay, sois un bon étudiant et sois drôle quand il faut être drôle. Fait que, tu sais, okay. Je pense que plein de gens vont recaler de l'école de moi à cause de ça. Ils arrivent, sont là à l'audition, puis ils essaient d'être drôle tout le temps, puis c'est oui. juste lourd. Fait que, tu sais, j'avais été bien coaché. Je me rappelle que j'avais juste réussi à faire rire au bon moment. Puis ils voyaient que j'étais bon. Tu sais, je me rappelle d'un moment, je pense que j'avais fait. Ils disaient, bon, qui est volontaire? Puis là, il y avait un gars qui était Alban, que je connaissais bien, un bon ami à moi qui a fait l'école de moi avec moi finalement. Puis j'avais juste dit. Moi, c'est Alban, je suis français, je vais y aller. Tout le monde est parti à rire. J'ai imité sa voix. De la... Tout le monde est parti à rire. Je fais, hey, non, c'est joke, Alban, je vais y aller en premier. Mais okay. Justement, j'ai taquiné quelqu'un.
Gentiment.
Puis je suis, non, regarde, c'est une joke, je vais.
Puis t'y allais toi-même, ouais.
Puis là, j'étais en premier. Puis c'est, ah, ok, il est bon dans l'énergie de groupe. Mais je suis pas bon dans l'énergie de groupe d'habitude. Je suis tout seul dans mon coin, puis je ferme ma gueule, tu sais.
Okay.
J'ai eu l'air plus cool au stage que je le suis. Ça m'a permis de passer, mais j'étais, comme je dis, je n'étais pas supposé. Je pense qu'on était 140 en phase d'audition et on prenait 12. Puis j'étais pas dans le top 12 là, des meilleurs. Là.
OK. Mais là-bas, tu développes ton talent. Tu testes même des personnages, tu l'as dit. Il y a le Hitler, il y a le DJ Shuffle. Aussi. dans ta cohorte, il y a entre autres, il y a Joe Guérin, il y a F. Côté, il y a Marilyn Jonca ou encore Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques.
Ouais.
Tu es diplômé en 2014. Tu fais bien sûr la tournée des finissants. Comment t'as vécu ton expérience à l'École nationale de l'humour? Et est-ce que tu recommanderais l'école à ton tour?
Moi, j'ai trouvé ça très difficile, l'École nationale de l'humour. Je suis rentré là-bas avec aucun background vraiment d'impro, de théâtre, de jeu. Puis il y avait du monde qui avait beaucoup de talent. Tu sais, juste Phil Audrey qui avait fait le conservatoire avant. Il y avait du monde qui était très talentueux. Fait que mon estime personnelle en tant qu'artiste était à zéro là, en sortant de l'école. J'étais pas bon. Mais vu que j'avais un côté entrepreneur déjà, j'étais quand même, je vais finir gérant d'artiste, puis c'est pas grave. Puis j'ai trouvé ça très rough, l'école de l'humour. Cependant, après ça, tu sais, j'ai trouvé ma place dans ce milieu-là, puis mes forces, puis ma confiance a vraiment augmenté en sortant de l'école. Je jouais beaucoup dans les bars déjà en deuxième année, puis ça m'a beaucoup aidé de comme. À l'école, j'étais pas bon, mais en dehors de l'école, j'étais bon. Fait que, mais après ça, ce que je recommanderais l'école à du monde, le milieu est beaucoup en évolution. Moi, j'avais besoin de faire l'école. Parce que j'ai tête en l'air, j'ai toujours 18 000 projets. Puis pour atteindre un certain niveau en stand-up, faut que tu te mettes à temps plein là-dessus. Ben moi, ça a été 2 ans pendant l'école, puis. Avant de gagner ta vie, il faut que tu mettes du temps plein là-dessus, mais tu peux pas mettre du temps plein là-dessus parce qu'il faut que tu gagnes ta vie. Puis c'est vraiment tough de mettre du temps plein quand tu gagnes pas ta vie. Puis moi, en allant à l'école, j'étais obligé de faire ça pendant 2 ans. Mm-hmm. Fait que je l'aurais pas fait, j'aurais pas eu le guts de le faire ou la constance ou je serais parti sur un autre projet ou où j'aurais ouvert un autre bar. Ou je me serais occupé, on n'est pas occupé du bar que j'ai ouvert, j'étais vraiment le mauvais partner sur bien des égards là-dessus. Moi, j'avais besoin de faire l'école, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde dans ma situation qui ont besoin de ça, pour d'un encadrement pour. Mais en même temps, c'est très possible de faire chemin en humour sans faire l'école totalement. Puis je pense que c'est vraiment du cas par cas. Il y a du monde qui en a besoin, du monde qui en a pas besoin, du monde ça va leur nuire, du monde ça va les aider.
Okay,
cas par cas.
Mais donc, quelqu'un qui aurait plus besoin de structure, ça va peut-être lui faire du bien.
Le profil type, je pense, de quelqu'un qui a besoin de rentrer à l'école, c'est quelqu'un qui est peut-être gêné aussi.
Mm-hmm.
Parce que c'est tough de demander du booking, c'est tough de. Puis là, quand tu rentres à l'école, tu passes 2 ans de ta vie avec 12 personnes qui ont la même passion que toi, qui deviennent des cousins, cousines pour le restant de ta vie. Il y a 12 personnes au-dessus de toi qui sont dans l'année précédente, il va y avoir 12 personnes qui vont être après toi l'année précédente. Fait que tu as comme une espèce de banque de 36 personnes qui sont passionnées pour la même affaire que toi, qui ont vécu la même affaire que toi en même temps que toi.
Tu peux aussi rencontrer les auteurs aussi.
Ouais, tu rencontres aussi les auteurs. Fait que tu es comme soudé à une espèce de bassin de 45-50 personnes pour la vie, là. Tu sais, il y a quelque chose que vous avez vécu ensemble qui est rough. Je sais pas que c'est comme aller à la guerre, mais c'est comme aller à la guerre, tu sais. Puis ces contacts-là, j'ai pas le mot contact, mais c'est plus ces appuis-là de vie vont être très utiles dans une carrière. Fait que je pense que quelqu'un qui est gêné, qui est timide, ça peut être très pertinent d'aller à l'école de l'humour pour ça.
Mais moi, j'ai toujours rêvé de faire l'école parce qu'en fait, il y a un truc qui. C'est quand même leur gros argument de vente, c'est que si tu regardes tous les humoristes que tu préfères, ben, y en a un paquet qui viennent de là. Donc moi, ça me donnait très envie d'aller là-bas, d'en entendre parler, mais rien que le fait qu'il y ait une école qui fasse l'humour, je trouve ça incroyable. Moi, je me suis inscrit ici au cours du soir pour pouvoir y assister. J'ai ouvert les portes de l'École nationale, je capotais.
Est-ce que tu étais déçu sur la grandeur de l'école?
Non, même pas. Mais je crois que j'étais absolument pas dans l'objectivité du truc. J'ai ouvert la porte, j'étais là, je suis à l'École nationale de l'humour, tu vois. J'avais le site en favori depuis 2011, tu vois.
Okay.
Et tous les ans, je regardais, il y avait les inscriptions qui arrivaient, je me disais à chaque fois, non, pas cette année, non, j'oserai jamais, ah non, j'ai pas les moyens, enfin, milliers d'excuses possibles et imaginables. Mais du coup, y être, je trouvais ça assez incroyable.
Il y a une norme dans cet endroit-là, il y a quelque chose.
Il y a quelque chose, ouais. Mais tu sais, voir les photos des finissants, voir les casiers, avoir entendu dans les podcasts de Jay du Temple, de.
Le costumier, voir c'est quoi qu'il y a là-dedans, le bureau de la directrice, la petite salle de spectacle.
Ah, moi, j'ai vu Louise Richet, la directrice, qui passait dans un couloir, j'ai fait, oh, c'est Louise Richet, tu vois. Mais c'est juste un truc de geek d'humour et de. Le nombre d'humoristes que j'aime qui sont passés par l'école, bah, il y en a plein, quoi.
C'est vrai dans les gros potins que l'école est en processus de déménagement.
Ok.
Fait il y a comme quelque chose de très triste. Comme,
oui.
Tu sais, moi, je suis rentré dans cette école-là, puis je suis comme, oh mon dieu, lui étudie là.
Oui.
Lui étudie là.
Ben, c'est ça.
Mais moi, mettons, si un jour je deviens célèbre, il n'y aura pas de jeunes humoristes qui vont faire comme, oh Charles, non, est fermé l'école, ce que Charles.
Mais si je me rappelle.
Il y a un changement de local, il y a comme.
Mais si je me rappelle bien, les premières années de l'école, c'était pas à cet endroit-là aussi, il me semble.
Ouais, c'est vrai. Il y a eu, je pense, les 4-5 premières années de l'école étaient dans un autre local. Fait que, mettons, les 4-5 premières cohortes, t'as pas ce feeling-là, mais de savoir que, mettons...
J'ai du temple, il y a...
J'ai du temple, t'es de l'ado du bois, fait qu'on partageait quasiment le même casier.
OK.
Pour moi, c'est...
Il y a, Roman Frécyné, Rosalie Maillon...
Roman, t'es de l'ado du bois, fait qu'on partageait quasiment le même casier.
Rosalie Maillon court, même année aussi. Ouais, ben, c'est Sam Breton, mais je veux dire, c'est la même année. Moi, il y en a plein, David Bocage, je cherche dans les plus vieux, dans l'école nationale. Mais il y en a tellement, ouais, quoi. Moi, j'étais juste aller dans les couloirs et regarder les photos de tous les finissants. J'étais là, et lui. Et
il y en a
plein qui doivent faire du
monde. Peut-être que tu vas entendre un podcast qui me fâche, mais j'aime pas ma photo de finissant.
Mm-hmm.
Mais j'avais eu une idée.
J'ai failli dire, je comprends.
Elle est vraiment là, je la déteste. Et ce qui me fâche, c'est que j'avais eu une idée. Que pour moi, j'adore les jokes stunt un peu.
Mm-hmm.
Puis il y a un gars qui, en 2008, qui s'appelle Alex Roof, ou 2010, mm-hmm. sa photo, c'est lui qui tient une affiche qui est marquée « Je suis connu en 2015 ». Puis là, moi, ce que je voulais, c'est que ma photo de finissant, ça soit « Non, Alex ». Pour que,
okay.
que les gens comme toi qui se prenaient à l'école de l'humour voient ma photo, comprennent pas, mais regardent toutes les autres photos, puis là, ils voient... Je te connais en 2015, puis voilà, c'est Alex, puis là, oh shit, le gars a répondu 8 heures plus tard. Moi, je trouvais que la joke, elle avait l'air 1 million de dollars.
Elle est drôle.
Louis Duchet a pas voulu.
Ah!
Elle trouvait ça méchant, puis moi, j'ai appelé le gars, je me suis dit, hey, ça te dérange-tu? Puis comme, non, c'est fucking drôle.
Ah, c'est drôle, ben oui.
C'est tellement drôle, puis là, j'ai une photo dégueulasse, tu sais. Mais j'aurais tellement. T'sais...
Oui, c'est drôle. Mais c'est vraiment une blague de il faut la voir.
Et c'est une blague que les 24 humoristes qui vont à l'école à chaque année vont faire comme il est épais. C'est juste ça. C'est même pas genre tu là. Bien joué à la limite. Là.
C'est ça aussi. C'est bien trouvé. Tu vois. Mais après, il faut faire le lien. Tu vois,
ah ouais,
c'est...
Faut que tu vois toutes les photos de toutes les finissants pour faire comme oh mon dieu, tout ça sur 8 ans.
Oui, on dirait un plan machiavélique juste pour faire une petite blague. Mais j'aime bien, c'est con mais c'est drôle.
Moi j'adore les je rêve de trouver une manière de je l'ai pas trouvé là mais dans mon premier spectacle j'aimerais ça mettre un punch in pour faire un callback dans mon troisième spectacle.
Ok.
Pour que le monde s'il l'écoute font.
Ouais mais là faut vraiment ouais.
J'adore ces affaires là.
C'est des blagues temporelles quoi.
La meilleure blague que j'ai faite temporelle dans ce sens là c'est j'ai écrit sur Facebook il y a longtemps « Salut Charles du futur, je sais que tu passes plus de temps à regarder tes souvenirs Facebook que ton courrier et aujourd'hui tu dois payer tes plaques de char. » Fait que là, l'année d'après, quand c'est arrivé sur souvenirs Facebook, j'ai partagé en disant « Merci Charles du passé, je vais payer mes plaques. » Mais tu sais, c'est une joke que j'ai préparé sur un an pour avoir 150 likes. Là. C'est un an de combat, de préparation, de comme « Oh, j'ai hâte. » Puis j'aurais ça pour la même affaire sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Là.
Ouais, je trouve ça vraiment drôle. Mais après, je crois que c'est un truc d'humoriste de... Qu'est-ce qu'on ferait pas pour une blague, quoi?
Ah, oh, moi, j'adore ces affaires-là.
C'est aussi un truc que j'aime beaucoup dans... Ben, juste avec Mike Ward, dans le nombre d'épisodes où il dit qu'il a dépensé de l'argent en masse pour une blague, tu vois?
Ah,
genre,
man,
sa publicité sur le panneau d'affichage, mais tout ça pour une blague, quoi.
Ma plaque d'immatriculation de voiture m'a coûté 250$ pour que ce soit marqué « drôle ». 250$ et je viens de pogner un ticket parce que la police m'a arrêté parce qu'il comprenait pas ma plaque. Il était sûr que j'étais comme quelqu'un. J'ai passé sur une jaune, il a rentré ma plaque, fait, hey, celui-là, je t'en veux être un criminel, tu sais, parce que j'avais une plaque du métal, puis j'ai pas eu un ticket à cause de la pogner dans ce cas.
Ok.
Mais des blagues qui valent cher. Mais tu sais, en plus, dans quel film, qu'il y a un magicien, qu'il y avait un arbre pas mature, puis il a mis une bague dedans. Pour que dans 20 ans, quand l'arbre grossit, pouvoir sortir la bague de l'arbre.
Ça me dit quelque chose, mais je n'ai aucune idée de où j'ai vu ça.
Mais tu sais, un tour de magie sur 20 ans comme ça, trouver l'équivalent en blague, ben, c'est mon rêve. Là.
Ok. Entre la sortie de l'école nationale et le bordel,
ouais.
Comment ça se passe tes débuts en humour? Une fois que tu sors de l'école...
Ma vie, j'ai l'impression que tout va vite. Fait que je ne pourrais pas te dire que je jouais beaucoup dans les bars... Je prenais des contrats d'écriture un peu. J'ai travaillé en écriture avec Lise Dion en sortant de l'école. Fait que j'écrivais des jokes pour un monument de l'école, un monument d'humour au Québec.
Je dirais l'équivalent en France, ce serait Florence Foresti.
Ouais, à peu près.
Ouais.
Puis j'étais un kid. Puis la première gig, en plus, c'était dans le temps, les galas Juste pour rire avaient des thématiques. Mm-hmm. Fait que là, on me dit, veux-tu écrire pour le gala à
la luxure? Ouais, il y avait les thèmes genre la luxure, les 7 péchés capitaux.
Là, moi, le gala, c'est la gourmandise. Fait que je dois prendre un monument de l'humour québécois, puis écrire des jokes de grosses. C'était gênant, là. J'étais comme... Alors, Lise, voici 22 blagues où ce que je te traite de baise. T'es-tu prête à les regarder avec moi? Puis elle est super fine, elle est tellement drôle, puis elle était géniale. J'adorais avec cette madame-là, puis il y a des jokes que je pensais qu'elle était bonne, puis elle était comme, ah, je suis pas sûr, puis ça, je pense que tu devrais l'essayer, puis t'as raison, je vais l'essayer. Puis là, je la voyais défendre une de mes jokes, elle dit, ah oui, celle-là, ça marche. T'sais, des fois, il y en avait qui marchent pas, mais.
C'est le fun, ça.
Qu'une madame de cette importance-là en humour écoute un kid de 25 ans, puis ce qu'elle fait, puis hey, mais j'adorais cette madame-là, elle était incroyable.
Wow. Non, mais c'est vraiment cool. Ben, ça, c'est donner sa chance à un auteur, c'est, ouais, c'est vraiment cool.
Puis, mais j'étais encore dans des espèces de... est-ce que je vais devenir gérant d'artiste? Est-ce que je vais devenir humoriste? J'avais un côté business qui est en dedans de moi depuis toujours, puis que le jockey a fermé. Fait que j'avais beaucoup d'appels de... Hey Charles, peux-tu m'aider à organiser ce projet-là? On voudrait produire tel show. Fait que je passais beaucoup de temps sur des projets d'autres ou d'écriture d'autres, puis pas beaucoup de temps sur mes affaires. Mm-hmm. Fait que tu sais, en sortant de l'école, j'avais peut-être une demi-heure de matériel, un 40 minutes de matériel, pas assez pour être liné dans les bars, puis être bon, mais tu sais, j'ai passé beaucoup de temps sur les projets des autres, passé sur les miens, puis là, le bordel est arrivé quasiment un an après l'école, je pense.
Tu es diplômé en 2014, c'est mai 2015.
C'est ça, fait qu'un 10 mois après l'école. Ouais. Fait que...
Bah d'ailleurs, on y est. En 2015, François Bellefeuille te contacte sous les conseils de Phil Roy pour te parler d'un projet de comédie club qui deviendra le bordel où on enregistre aujourd'hui. Je suis tellement content de pouvoir dire cette phrase. Il voulait quelqu'un qui est dans la vingtaine, qui est dans l'humour, qui a de l'expérience pour gérer un bar, donc t'as vraiment le profil rêvé.
Bah, personne ne l'avait, ce profil-là. C'est très rare, là.
C'est clair. Comment tu as réagi à ça et au fait de devoir pitcher l'idée devant Louis-José Houde, Martin Petit, Laurent Paquin, François Bellefeuille et Mike Ward, qui sont 5 légendes de l'humour? En France, ils ne sont pas connus autant qu'ici, mais c'est vraiment des légendes de l'humour. Ouais. C'est dans les humoristes les meilleurs au monde. C'est fou. Moi, je pense qu'on me dit ça, je tombe dans les pommes, je fais un coma de 2 ans et après, je réfléchis à l'idée.
Mais il y avait vraiment un sentiment d'imposteur. Mm-hmm. Parce que tu sais, le monde sont comme, ah mon Dieu, à 24 ans, il a ouvert le jockey, ça doit être un génie du marketing. C'est pas ça l'histoire, là. on l'a compté tout à l'heure, c'est pas fait un plan d'affaires, puis j'avais pas ramassé de l'argent pendant 10 ans pour ouvrir mon projet. Tu sais, j'étais un coup de chance. Après ça, l'humour, tu sais, je connais l'humour, mais tu sais, on me demande de designer un comedy club, je viens de sortir de l'école de l'humour, genre. J'ai pas assez joué, j'ai pas été voir le Comedy Cellar à New York, j'ai pas. Ma culture du stand-up est. Je catch que, mettons, c'est le fun que t'as un spotlight sur toi, puis que c'est le fun que le plafond soit bas, mais je connais pas, tu sais. J'ai pas les connaissances des salles de spectacle que j'ai aujourd'hui. J'avais pas fait. T'as fait de la tournée d'école de l'humour, mais c'est dans des grandes salles. Fait que, je sais pas c'est quoi un bon comedy club. Mm-hmm. Puis là, c'est comme. Charles, ouvre-nous le meilleur comedy club. J'sais, ouais! Moi, je suis capable! J'ai trouvé cette espèce de côté stupide, épais, de comme, m'a trouvé une solution plus tard. Puis, j'ai dit oui, puis c'était intimidant, c'était stressant, j'avais le sentiment d'imposteur, j'avais peur de me planter, j'avais peur que ça marche pas, j'avais peur que ça résiste pas, puis il est arrivé tellement de bévues dans le projet que je voulais mourir, j'ai perdu 10 ans d'espérance de vie en stress dans cette année-là, puis. Mais il est ouvert, puis ça marche, puis je comprends pas pourquoi. C'est niaiseux, mais je t'ai parlé dernièrement dans un autre podcast, mais man, le karma, le fait que je suis mardeux dans la vie, là, tout. Je fais des affaires, puis ça marche, puis ils sont pas supposés de marcher. C'est comme.
Oui, mais ça a marché, mais. À un point, cet endroit.
Ça n'a aucun rapport.
Cet endroit, moi, je suis. Pas déjà, je rêvais de rentrer dedans, mais quand je suis rentré. J'ai vu le spectacle, je me suis dit, mais cet endroit est parfait, quoi. Tu sais, quand t'as fait pas mal de scènes, tu vois les trucs qui fonctionnent, les trucs qui fonctionnent pas, et tu te dis, mais l'acoustique est... Tu vois, moi, je suis arrivé déjà avec des yeux de, ah, je suis au bordel, et après, je me suis dit, bon, on va essayer d'être objectif sur l'endroit. Est-ce que le son est bon? Oui. Est-ce que la lumière est bonne? Oui. Est-ce que les gens qui travaillent là connaissent le lieu et font en sorte que ça se passe bien? Oui. Tout est nickel, quoi. C'est parfait. Ici, on est dans un studio d'enregistrement qui se trouve juste au-dessus, où tu peux échanger, faire des podcasts d'humour. Le lieu respire l'humour. Enfin, moi, je trouve ce lieu incroyable.
je suis admiratif de ce que tu as réussi à faire. En plus,
j'ai beaucoup aidé, c'est pas que moi. Mettons, oui. Quand je dis chanceux, c'est que j'ai été chanceux d'être super bien entouré sans que je choisisse les personnes qui m'entourent. Comme mettons, le gars du podcast latin ici, Luc Bellil, est un génie de la restauration. Il est très efficace avec tout le côté justement accueil. Le côté restauration, le côté bar, à quel point tu sais c'est le comment que le service est fait pour pas déranger, tu sais, comme c'est lui qui a tout organisé ça, qui puis qui m'a aidé beaucoup dans les rénovations, trouver lui a été d'une aide. Le bordel est quasiment plus la réussite de Luc que de les six autres partners ensemble, selon moi là. Okay. Très humblement là, beaucoup de respect pour cet humain là, mais tu sais, la vérité, c'est que, man, j'ai un sentiment d'imposteur de. On parle de la réussite du bordel, puis je suis comme. Yo, si tu savais, là, c'est genre ma mère qui a peinturé en scène. Genre, c'est pas. C'était pas une équipe de. Où est-ce qu'on a mis des milliards de dollars, puis genre, c'était organisé, puis on avait 8 designers qui étaient cool à Paris, puis New York. Tu sais, comme. Man, c'était broche à foin, là, genre. Moi, qui je me suis mis dans la marbre, j'ai trouvé des solutions. Tu sais, comme, t'as-tu entendu dans d'autres l'histoire de la billetterie?
Non, ça, l'histoire de la billetterie.
Okay. Moi, je me rendais compte que dans le temps, avant que les lois changent, le monde chargeait des 4-5 $ de frais
de billetterie. Ah, si, oui, les frais de billetterie.
J'ai créé une billetterie.
T'as créé une billetterie?
J'ai trouvé une manière de. Avec le gars d'Internet, je suis comme, moi, j'ai pas envie de donner 2$ par billet à quelqu'un. On veut que les billets soient pas chers. Fait que le 2$, j'ai écrit dans les poches. Ça, je peux-tu savoir ma billetterie? Fait, tu peux pas avoir la billetterie, ça coûte. Ça. Puis là, il me dit, ben, je veux ma billetterie. Fait que là, finalement, nous autres, notre billetterie, c'est un système de réservation de restaurant, c'est un plugin de choses, qu'on a rajouté un frais pour réserver au restaurant. Fait qu'on a créé notre propre billetterie pour ramasser un peu plus d'argent, justement. Tu sais, c'était nous autres, on voulait que les frais soient pas chers. Mm-hmm. Fait que c'était 1$ ou 2$ de frais du billet, mais qu'elle est toute dans nos poches. Fait que tu sais, genre, je parle de ça avec, mettons, Comédia, qui est un festival, le gros festival de Québec. Mm-hmm. On a acheté une billetterie, peut-être par du soleil, ça nous a coûté $1,000,000. Je suis comme, moi? Tu sais, ils sont comme, mais c'est un génie. Je suis comme, non, je suis juste épais, je sais pas, je connais rien, puis je me pisse dans le vide, puis je trouve des solutions.
T'sais. Oui, c'est ça, mais en plus, c'est vrai. Tu veux pas des frais. Le prix des billets dans des comédie clubs, c'est un truc qui freine des gens à aller voir des spectacles.
On veut que ça soit pas cher.
Et en plus, même pour les geeks d'humour comme moi, ben, je voudrais être ici tous les jours, tu vois ce que je veux dire. Mais à un moment donné, mon budget me dit, ben non, tu peux pas être là tous les jours. C'est normal, même si les prix sont abordables et tout ce que tu veux, mais tout ce qui peut faire baisser le prix, c'est...
Ou tu sais, la fameuse arche en métal...
Mm-hmm. Qui devait coûter 25 000...
Oui, tu sais, je suis trop malin qu'elle coûte, je pense, le tiers du prix, parce que, à cause des rénovations du jockey, j'ai magasiné des matériaux, fait que je sais que une plaque de métal... Plus qu'elle est longue, plus qu'elle coûte cher. Fait qu'on l'a fait en 4 parties. On a réduit l'épaisseur du métal. Tu sais, trouver des solutions de même. Mais le bordel, ça a été moi qui pleure puis qui essaie de trouver des solutions. Puis je suis tellement dans trouver des solutions que tu sais, je suis pas dans ça. Ça va être la meilleure chose pour le meilleur. Je suis comme, on n'a pas le budget, qu'est-ce qu'on va faire? T'sais, tout était un peu n'importe quoi. Fait que là, de moi qui brûlais en dépression, de j'ai trop travaillé, de voir, mettons, des artistes que le bordel fait 3 mois qu'il est ouvert. Puis là, c'est marqué sur la page de la boîte de gérance, a déjà performé au mythique bordel Comedy Club. Je fais, non, c'est des 2x4 que j'ai acheté. Tu peux pas dire que c'est mythique. Il y a encore. Tout me fascinait dans l'importance que le bordel a eu versus je suis qui, moi, pour avoir fait ça. Il y a une incongruité là-dedans qui me fait capoter.
Ouais, je comprends, parce que mais t'as été le propriétaire qui a vraiment bossé sur Comedy Club, ouais. Qui se levait à 5h du matin pour la construction, t'as peinturé avec ta mère, avec Mathieu Pepper,
ouais.
T'es aussi la première personne à avoir fait du stand-up sur la scène du bordel.
C'est Mike qui a été le premier animateur, c'est moi le premier qui a présenté.
Ok, mais qu'est-ce qui est le plus cool dans le fait d'avoir un Comedy Club, et qu'est-ce qui est le moins cool dans le fait d'en avoir un?
Le plus cool, je joue ici quand que je veux, ça c'est malade mental, j'adore jouer ici, puis je peux jouer ici quand que je veux, puis le plus cool, là ça va sembler fucking prétentieux, là. Le moins cool, ça va, ça... j'ai déjà entendu dire George Lucas, la pire affaire d'avoir fait Star Wars, c'est que j'ai fait Star Wars, c'est que j'ai jamais vu Star Wars. Il y a quelque chose de triste là-dedans, de, moi quand je joue c'est pas mérité.
Je comprends, pas, oui, tu peux jouer parce que t'es un des propriétaires.
Je suis un des propriétaires. Puis,
mais tu le sais que tu mériterais de jouer au bordel.
Ben maintenant oui, parce que j'atteins le calibre de jouer au bordel, oui. J'en suis conscient, mais au début non.
Okay, oui.
Au début je n'osais même pas jouer là, tu sais, il y avait Je faisais un an, j'étais sorti de l'école. J'étais pas l'humoriste que je suis aujourd'hui. T'sais. Fait qu'il y a ce côté-là de... Tu sais, c'est moi qui faisais la programmation au début, puis il y avait quelque chose de tellement le fun de... Quand c'était le premier bordel à quelqu'un, je textais pas, c'était pas un message messenger, je disais à la personne, je suis comme... Hey, Eric, qu'est-ce que tu fais demain? Ah, oh, je sais pas, t'en-tu joues au bordel? Ah, ouais! Cet appel-là, là, me rendait tellement heureux à faire. Okay. Puis je l'ai fait à tellement de monde. J'ai fait le premier bordel de... Ben, tous les premiers bordels des trois premières années, c'est moi qui appelais, puis c'est... Man, c'est tellement un cadeau du ciel de donner à des jeunes humoristes de yo. Puis c'est toujours genre super relax. C'est comme ouais, hey, vendredi, t'es-tu libre? Ouais. Tu sais, c'était comme jamais. Un peu comme si j'allais demander à de l'aide pour un déménagement. Là, genre, c'était toujours ça. Puis ah, c'était comme c'est des assez beaux moments que moi, je l'aurais jamais vécu. Là, mon premier bordel.
Je comprends, ouais.
Puis l'autre côté super négatif, c'est que, super négatif. Man, je travaille vraiment fort pour upstager le bordel. Qu'est-ce que je peux faire qui est plus gros que le bordel? Quel numéro de stand-up va battre l'ouverture du bordel dans mes réalisations? Ouais. C'est quel one-man show va faire comme... Quand est-ce que, mettons, un jour, là, on va dire, Charles Deschamps, c'est le gars qui a écrit tel show, et ça sera pas Charles Deschamps, c'est le gars qui va voir le bordel. Hey, faut que j'écrive un host show, là.
Bah, c'est... maintenant, ça commence à être Charles Deschamps, c'est le gars qui anime le gong show et le propriétaire du bordel.
Tranquillement, mais tu sais, le gong show, c'est vraiment le fun. J'adore ce projet-là. Mm-hmm. Mais dans 50 ans, personne ne va se rappeler du gong show, mm-hmm. mais on va se rappeler du bordel. Personne n'en sait rien faire. Oui, Charles, le gars qui animait le gong show en 2022. Tu sais, c'est ça qui... Man, ça va être top en crise à battre. J'ai écrit un livre avec trois amis humoristes, mm-hmm. Le Dictionnaire des vedettes. Ça a été un best-seller, puis personne ne le sait, là. Genre... Charles Deschamps, le gars du bordel, a toujours des plus hauts que écrire un best-seller. Ça n'a même pas passé proche de dépasser le bordel, écrire un fucking best-seller. Fait que, man, je sais pas ce que je vais faire pour dépasser, mais je pense être l'accumulation de plein de victoires. Le livre, le gang show, un Nessie One-Man show, des Olivier. Tu sais, il va falloir que. Puis tout ça, c'est juste pour qu'on me reconnaisse en tant qu'artiste plus qu'en tant qu'ouverteur. Ouvreur de comédie club, ouais. c'est le gros défaut.
Ouais, mais comme tu dis, c'est au fur et à mesure parce que, je reprends le même exemple, mais si je reprends Mike Ward, pour moi, c'est pas juste le gars qui a fait tel numéro, c'est toute sa carrière qui fait Mike Ward, c'est Mike Ward.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire?
C'est pas juste sous écoute. C'est
mais
pas juste...
il a sous écoute, il a le bordel, il a des numéros qui ont marqué le Québec et qui.
C'est pas juste le petit Jérémy, c'est pas juste. Ouais, c'est l'ensemble.
Ça. Ouais, c'est l'ensemble.
Ça, faut que je commence à travailler sur l'ensemble, mais...
Mais ça prend du temps, quoi.
Ça prend du temps, puis là, le bordel fait 7 ans, 8 au mois d'avril. Tu sais, j'accumule des petites victoires qui font comme... OK, Charles, c'est un humoriste. Tu sais, la finale du prochain stand-up, la finale de Rose Battle, là, tu sais, comme... J'ai prouvé que j'étais un humoriste plus dans les dernières années, qui ça me donne une espèce de... Charles, c'est le gars du bordel et un humoriste. Tu sais, le est beaucoup plus présent que les 2-3 premières années, là, tu sais.
OK. Mais aujourd'hui, 6 ans plus tard, le bordel, il est sold out tous les soirs, ou presque. Il y a les soirées open mic, il y a les spectacles d'humoristes, il y a les plateaux, les épisodes de sous-écoute qui sont enregistrés, le gong show. Vous avez ouvert le bordel 2 juste à côté. Et surtout, dès qu'on demande à un humoriste l'endroit où il préfère jouer, très souvent, la réponse est le bordel. Moi, j'ai eu l'occasion de poser la question à plein d'humoristes dans ce podcast, et le bordel revient très souvent. C'est limite, bon, il y a le bordel dans
c'est
les autres cas.
Place, hein.
C'est ça. Et ce qui est chouette, c'est d'entendre des gens qui ont joué dans tous les endroits possibles et imaginables dire c'est le bordel, et des gens qui ont un comedy club et dire l'endroit où je préfère jouer c'est le bordel. C'est incroyable de savoir tout ça. Ça te fait quoi de savoir ça?
C'est fucked up, man. C'est comme, il y a un gros sentiment d'imposteur de par rapport à ça, mais il y a quelque chose que je suis très fier de moi dans la communauté du BMX. Qui était mon école pour devenir un bon être humain, c'est tu reçois d'une communauté, tu redonnes à la communauté, qui est pas dans, malheureusement très ancré dans le stand-up. C'est un sport qui est très solitaire, puis dans le BMX, tu sais, à 30 ans, t'es rendu vieux pour faire du BMX. Les gars de 30 ans organisaient les compétitions des kids, tu sais. Il y a quelque chose qui était très de communautaire, il y a quelque chose de vendre tes pièces de BMX moins chères que tu pourrais à des kids qui ont pas beaucoup d'argent. Tu sais, quelque chose de très communautaire, de redonner à la communauté, d'aider les plus jeunes à apprendre des trucs. Il y a quelque chose que je trouvais très beau là-dedans. J'ai l'impression que le stand-up m'amène tellement beaucoup, m'a amené une autre passion dans la vie, m'a amené des amis pour la vie, des expériences incroyables, l'occasion de voyager, l'occasion de faire des spectacles dans d'autres pays. Puis j'ai l'impression que I paid my dues, genre j'ai redonné à ma communauté en m'impliquant sur le bordel, puis en faisant que cet endroit-là existe. Jamais je vais prendre le mérite au complet de moi, parce qu'il y a une partie de Bellefeuille, il y a une partie de Mike dans ce projet-là, il y a une grosse partie de Luc Bellil, de Daniel Blouin, de, tu sais, je pourrais nommer genre beaucoup de monde, et souvent quand on parle de bordel, c'est Charles Deschamps, c'est comme le bordel, c'est les humoristes qui ont joué, c'est les personnes qui t'ont assis à leur table, c'est les serveurs-serveurs, c'est les gars de son, c'est les c'est tellement de monde le bordel, puis on dit souvent Charles Deschamps pour. Parce que je suis un peu à la tête de pas la tête, mais j'avais le chapeau de contremaître, mettons, peut-être à l'ouverture, mais il y a tellement de monde, puis, mais j'ai l'impression que oui, effectivement, je fais partie de l'ouverture de ce projet-là, puis que je suis très fier d'avoir redonné à ma communauté.
OK. Ben, merci pour ça.
Plaisir.
Et
il n'y a pas de bordel trop, s'il vous plaît, je vais skier. S'il vous plaît.
Après, en avril 2016, tu commences à donner des cours à l'École nationale de l'humour. Ouais. Comment c'était d'y retourner de l'autre côté et qu'est-ce que tu faisais? C'était des cours sur les spectacles en bar, c'est ça?
Ben, j'ai donné des cours du soir en présentation de numéro.
Ah, oh, ben le cours du soir que je suis pour le moment.
Ouais, c'est qui ton prof?
C'est Mario Bélanger.
Vous présentez des numéros pendant...
On présente un 5 minutes pendant les 5 premières semaines et après on va retravailler ça avec les autres de la classe en mode brainstorm. Et avec les profs en individuel, puis on va représenter ce spectacle-là, le faire en spectacle.
Dans un bar,
filmé. Et la semaine d'après, on regarde notre passage et on commente et on voit ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé.
Moi, j'ai créé le cours de présentation numéro 2.
OK.
Où ce que fallait que t'aies fait la présentation 1. Fait que c'était du monde, mettons, qui avait déjà, mettons, plus d'expérience que. Mm-hmm. Au moins, il y avait déjà cette expérience-là. Puis c'est ça qu'on faisait, mais deux spectacles différents. Fait que. Un à la même session, un à l'autre session.
OK.
Fait que le rythme était plus rapide, puis j'adorais ça, mais à moins je manque de temps dans la vie, mais j'ai adoré enseigner, puis je le fais quand même d'aider les plus jeunes avec des textes ou des jokes. Il y a une partie de mon temps, je sais pas c'est quoi là, mais il y a une partie de ma vie de transmettre la passion, de transmettre le savoir. Puis il y a un autre cours que je suis vraiment content d'enseigner. En fait, c'est pas un cours, c'est plus une conférence que l'école m'envoie faire à chaque année. Où ce que j'ai parlé au finissant de l'école ou aux premières années, mais il y a une pandémie, fait que je viens de la faire hier, cette conférence-là. Puis là, je l'ai donné aux deux cohortes sur c'est quoi les bars après l'école, mm-hmm. comment t'en servir intelligemment, c'est quoi les pièges là-dedans, c'est quoi les bonnes manières de demander du booking, c'est quoi les mauvaises manières de demander du booking, c'est quoi le thinking d'un booker pour qu'ils comprennent c'est pourquoi que telle personne a plus de booking, puis je leur parle de santé mentale, c'est quelque chose, tu sais, d'être dans les bars 5-6 soirs par semaine, de voir du monde boire, de toi pas boire, de comme trouver une hygiène de vie dans un mode de vie qui est de nuit. Fait que je leur parle tout de ça, puis c'est un cours qui est, selon moi, très pertinent, mais que surtout, il y a 10 ans, on disait aux jeunes, ne faites pas de bar.
Mm-hmm.
Fait que de voir que j'amène une espèce de côté évolutif. L'école de l'humour évolue, puis je fais partie de cette évolution-là, puis mon savoir aide à l'école de l'humour à évoluer. C'est pour moi, c'est l'école de l'humour est un établissement important dans la culture québécoise, certes, mais dans la culture humoristique québécoise encore plus. Puis de participer à son évolution, c'est un bel honneur.
Bah, je trouve ça super cool de se dire bah, tu vas de l'autre côté, donc tu as quelque chose à partager avec les autres humoristes.
Je rêve secrètement à 70 ans de prendre la place de Louise Richer et d'être directeur de l'école de l'humour. C'est mon plan de retraite, genre 65-70, un dernier 5 ans à donner dans l'humour, là,
okay.
Directeur de l'école de l'humour.
Ok, t'avais le projet d'être premier ministre du Québec.
Oh là, c'est un directeur de l'école de l'humour. Premier ministre du Québec, je l'ai oublié, là, c'est fini. Mais par contre, man... J'ai des regains de ce temps-là de... quand est-ce que ça s'est passé? J'ai écouté Gabriel Nadeau-Dubois en podcast, puis le gars de Québec solidaire, puis un jour, ce gars-là va être premier ministre. D'après moi, c'est comme couler dans le béton dans l'avenir, puis je suis comme... Ah, ça me tente aussi. J'aimerais ça. Puis ça arrivera pas. J'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, j'ai pas l'étoffe d'un grand politicien, mais... Je suis jaloux de pas... J'aurais aimé ça de Gabriel Nadeau-Dubois dans une autre vie. C'est la personne que... Le kid de 12 ans que j'étais aurait aimé être ce gars-là.
OK, d'accord.
Mais je suis tombé dans le vice, dans le sport extrême, dans l'alcool, dans les bars, dans l'humour, dans le... parler de sujets tabous. J'ai pogné un virage que je m'attendais pas à virer nécessairement. mais je suis jaloux de ce gars-là, de la prestance qu'il a, de l'intelligence qu'il a, du mouvement de société qu'il peut amener, du pouvoir qu'il a, pouvoir en sens positif de... Tu sais, ça se peut que dans la prochaine génération de jeunes n'aient pas à payer le dentiste à cause, en partie, de ce gars-là. Puis ça, c'est un impact bien plus cool qu'avoir ouvert le bordel. Tu comprends? Genre,
oui.
Tu sais, il y a une espèce de jalousie de « j'aimerais ça avoir cet impact-là sur... » J'ai l'impression que peu importe ce que je vais faire dans le monde, je vais avoir moins d'impact que ce gars-là pour en avoir sur la société.
Ok, d'accord.
Fait qu'il y a une jalousie de...
De ça, ouais.
De ça.
Donc, au lieu d'être lui, tu vas être Louise Richer.
Ouais, je vais former les prochains humoristes. Puis ça va être ça mon apport à la société. Ma candidature n'est pas officielle, Louis. Ton spot est encore, il va toujours être à toi. Mais je sais que c'est quelque chose qui m'intéresserait peut-être.
Ben, ça me fait plaisir que tu penses que Louise va écouter mon podcast. Ça me fait plaisir. Après, en septembre 2017, tu joues ton premier spectacle au Théâtre Sainte-Catherine que tu appelles « Mon père est plus mort que le tien »,
ouais,
qui est un titre incroyablement drôle. De quoi parlait ce premier spectacle et comment il a été reçu? C'est le spectacle que tu as capté, que tu retravailles.
Quelle date c'est sorti?
Ben, ça, c'est... En fait, en mars 2017, tu disais qu'en septembre 2017, tu allais faire ce spectacle, mais je ne sais pas si tu l'avais déjà fait, si tu l'as fait au final.
En septembre 2017, 5 ans, tabarnak, ça va vite.
C'est dans le podcast avec Louis-José Hout que tu disais ouais, qu'en septembre,
c'est
jouais.
C'est drôle en tabarnak. Je fais un podcast avec Louis-José, puis là, ce qui arrive, c'est que je suis comme, oh mon Dieu, beaucoup de monde va écouter ça, je suis mieux d'avoir un spectacle à vendre. Et okay, durant le podcast, j'ai inventé que j'avais un spectacle.
Ok, d'accord.
J'ai loué la salle après le podcast. C'est genre, tu sais quand je dis que je suis épais puis brillant, c'est exactement cet exemple-là. Hey man, tu vendrais tellement de billets à un spectacle. Fait que là, sur scène, pendant le podcast, j'ai un spectacle au mois de septembre. Juste septembre, on a des dates de libre, calé, c'est dans 3 mois.
Ça aurait été drôle que les... vraiment qu'il y ait un petit délai entre les deux et que les gens du théâtre fassent. Mais il est pas du tout bouclé chez nous.
C'est tellement. Fait que là, je l'ai fait pour une première fois. Il était mauvais, il était pas prêt, mais j'étais pas prêt. Puis là, je l'ai travaillé beaucoup. Puis là, il y avait une pandémie, je l'ai passé en tournée avec. Puis pandémie, fait que là, je l'ai capté quand la pandémie est finie. Parce que je suis tanné de le faire, il y a plein de gens. Puis il y avait plein de nouveaux matériels qui ne fitaient pas là-dedans, parce qu'ils ne fitaient pas avec le titre. Fait que là...
OK, mais de quoi parlait le spectacle?
Ah oui, de quoi parlait le spectacle? De moi.
OK, merci.
le numéro final est beaucoup... en fait, il y a beaucoup d'affaires reliées à la mort. Il y avait... je parlais du cancer de ma mère, je parlais d'un ami qui a pogné du sida, de beaucoup de sujets très reliés à la mort. Puis moi-même, ma vision de la mort, le numéro final parlait de quand j'ai trouvé mon père décédé. Mm-hmm. Puis tous les malaises reliés à la mort, puis toutes les l'espèce de... tout ce qu'on doit faire qui n'a aucun sens, tu sais, d'appeler une compagnie funéraire puis de magasiner un prix pendant qu'il y a quelqu'un qui est décédé à 12 pieds de toi. Tu sais, il y a tellement de malaise weird que ça, c'était la finale du numéro. Puis le punch-out du numéro, c'est que j'explique que je me tirerai une balle dans la tête à 60 ans.
OK. Je sais pas comment réagir à cette information de fin de...
Mais c'est pour ça qu'il faut voir le spectacle, parce que c'est drôle quand je le fais sur scène, mais...
OK, ouais.
La mort est hyper tabou.
Mm-hmm.
Mais pour moi, la mort est comme... Tu sais, à un moment donné, t'es fini, là. Ton élastique de boxeur, il est pété, tu jettes tes boxeurs. Mais tu sais, je pense que moi, à 70 ans, avec les commotions que j'ai eues, avec la vie que j'ai eue, t'as assez, là. J'en aurais assez fait. Puis même, à la base, quand j'avais écrit le numéro, je pense que c'était 50 ans que je disais.
OK.
Puis ma blonde m'avait pété une coche à l'époque. Là, comme tu peux pas me dire que tu vas tirer une balle dans la tête à 50 ans. Puis je suis comme 60, puis tu te connais. Je vais comme commencer à négocier.
J'essaie de négocier
l'âge de mon suicide. Puis finalement, sur scène, c'était 70, l'âge qui passe le mieux.
OK.
Mais là, on sait pas aussi avec la technologie puis tout ça, comme à quel point on va pouvoir vivre vieux puis en santé. Mais moi, je pense 60, là, c'est assez, là.
Okay.
Dans ma situation à moi, c'est vraiment pas. Je dis pas quand je vois pas quelqu'un. Quand je vois quelqu'un de 65 ans, je me dis, tiens-toi de balle. Je suis pas dans cette vibe-là, mais. Tu sais, la vérité, man, c'est fucked up ce que je vais dire, mais. Après me tirer une balle dans la tête demain matin, puis. J'ai assez vécu de shit, là. Il y a la paternité que j'aimerais vivre.
OK.
Mais, mettons, j'apprends demain matin que je suis stérile, que je pourrais jamais avoir d'enfant. Bon, le 70 vient de passer à 45, là.
Ben, je te conseillerais de ne pas faire de test de fertilité.
Mais pour le vrai, j'ai l'impression que j'étais chanceux dans... J'ai gagné ma vie dans le sport que je voulais toute ma jeunesse. J'ai trouvé une autre passion qui était l'humour. Le bordel... J'ai amené de quoi à la communauté que j'aime. Ce que je dis, mettons... Pas que demain matin, mais c'est pas une balle. Demain matin, le médecin m'apprend « Yo, il te reste 3 mois à vivre. » Je vais faire « Ah, je suis pas à la fin du monde. »
Ok.
J'ai vécu assez de shit. Genre, comme, je suis content de ce que ma vie a été.
Okay. Tu sais, c'est fou.
Tu sais, mettons dans ma to-do list de choses qui restent à faire, il me reste genre le Delta Plan. c'est pas. Je peux régler ça en trois mois, là. Genre, c'est assez, là. Genre. Tu sais, parachute est fait, bungee est fait, snowboard est fait, voir tous les continents, c'est pas mal. J'ai pas vu l'Antarctique.
Ok.
Tu sais, l'Australie non plus. Mais tu sais, pas en fin du monde, j'ai pas vu l'Australie. Tu sais, j'ai appris une autre langue, j'ai vécu dans un autre pays. Tu sais, j'ai.
Ok.
Je serais pas amer de mourir dans trois mois.
Ok. Ben moi, je, du coup, réserve pas non plus un test pour le Delta Plane tout de suite. Parce que moi, j'ai envie de voir le deuxième spectacle.
Donc, ouais, mais ça, le deuxième. Ben,
j'ai envie de te voir aussi en directeur de l'École nationale de l'humour.
J'aimerais ça aussi. Mais dans le sens, c'est comme. Je suis très zen avec la mort. Je suis très. C'est pas grave, c'est pas triste la mort. Ça peut être beau, ça peut être très beau, ça peut être très noble, ça peut être très normal. Faut normaliser, je pense, le décès et la mort quand c'est fait dans des conditions correctes. Là.
Ok. Bah, tu m'as vraiment donné encore plus envie de voir ton spectacle. Parce que je trouve que les gens qui arrivent en humour à parler de mort, ça fait des numéros extraordinaires.
Ah, puis là, tout à l'heure, tu restes pour le show, j'ai un assez nouveau numéro sur la mort qui est vraiment le fun. Là.
Ah, ben je vais rester, oui.
Cool. Ma grand-mère est morte il y a trois mois, puis c'était un assez nouveau numéro.
Mais je crois que j'ai vu un passage où tu parles de
oh, oui,
que t'avais joué au JT quand on avait joué ensemble.
Oui, c'est exactement ce passage-là aussi.
Ben, j'adore ce numéro. Donc, il est vraiment bon. C'est après ce numéro-là, je me suis dit, parce que je te connaissais plus comme le propriétaire.
Ouais.
J'ai vu les passages au prochain stand-up, ceux que j'ai pu voir, machin. Et je me suis dit, j'aime vraiment bien, je vais sûrement l'inviter si je le croise. Puis je te vois au JT, j'adore ce numéro. Et je l'avais vu au bordel, mais j'aime vraiment bien ce numéro. Mais quand on peut parler de la mort, moi je trouve. En fait, ce que j'ai compris ça avec l'humour, ce que j'aime le plus, c'est tu prends quelque chose de la vie qui est vrai et t'en fais quelque chose qui est drôle. C'est beaucoup plus drôle que quelque chose que t'as pris. C'est pour ça que j'ai du mal avec les personnages un peu plus. C'est bah, c'est faux, c'est même pas quelqu'un qui existe. Donc j'ai plus de mal.
Son numéro sur sa mort.
Oui.
C'est le meilleur numéro de l'histoire, selon moi. C'est,
mais t'as vu Pulsion de Kian Kojandi?
Non.
Ok, il est disponible sur YouTube, je te le conseille vraiment, parce qu'il y a tout un passage sur la mort de son père, avec, il va voir sa tombe et tout ça, et c'est un de mes numéros préférés, parce que je trouve ça beau, je trouve ça triste, je trouve ça émouvant. Il y a tout plein d'émotions qui se mélangent, et je peux revoir le spectacle. Il y a des moments...
Écoutez, j'aime beaucoup Kian.
Ah oui, vraiment.
Malheureusement, je l'ai juste vu, mettons, au bordel, sur scène, à coup de 10 minutes.
Ok.
Puis, c'est sûr que tout le monde le connaît par sa série, là.
Oui.
Mais j'aime beaucoup l'être humain. Il est vraiment fin, c'est une bonne personne. J'ai beaucoup aimé... il se prend pas du tout la tête.
Oui.
Il est drôle. J'ai beaucoup aimé ce gars-là.
Ben, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui dans le podcast aussi. Et vraiment, son spectacle Pulsion, moi, c'est un spectacle que je me regarde une fois par an. Et ce numéro-là, en particulier, quand il va voir la tombe de son père, pour ceux qui connaissent le sketch, moi, c'est une pépite, c'est magnifique, c'est beau. Donc, je le conseille au passage. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait te parler. Tu me diras ce que t'en penses.
Parfait, j'ai écouté ça.
Mais ce serait... Ouais, franchement, je pense que ça peut te parler, puisqu'il parle de la mort, il fait des bonnes blagues dessus, ce qui est vraiment fort. Après, si on continue dans ce que tu as fait, ben t'as écrit pour d'autres humoristes, tu l'as ouais. dit, t'as écrit pour des séries, pour des émissions de télé, t'as été au Mexique pour le faire. Est-ce que le rôle d'auteur, c'est quelque chose qui te plaît autant que la scène?
J'aime écrire, j'aime... Tu sais, pour moi, mettons, quand j'écris et qu'il y a un bon punch, comme « Ah, puis je suis heureux, là! Mm-hmm. » C'est pas grave si c'est pas moi qui le fais sur scène, c'est pas grave si c'est dans une émission de télé, mais... Il n'y a rien qui bat le fait de le faire sur scène. Il n'y a rien qui bat ça. Mais mettons que, je sais pas moi, on vit dans une société où le stand-up n'existe pas. Mm-hmm. Être auteur a été une job de rêve. Là. J'aime autant le craft que le résultat. J'ai okay. autant de fun, mettons, à écrire une nouvelle joke que de refaire une vieille qui marche bien. Tu sais.
OK, ouais.
Puis je pense que je suis même un gars qui stand beaucoup de faire les mêmes jokes, qui a plus de fun après... Après, mettons une dizaine de fois le même numéro, genre, il faut que je rajoute des affaires dedans, sinon je dis. Je pourrais pas dire qu'est-ce que j'aime le plus. En fait, écrire pour moi puis faire les jokes pour moi,
mm-hmm.
les deux me passionnent beaucoup. Puis pour moi, écrire pour moi puis écrire pour quelqu'un d'autre, c'est le même craft, là, c'est de trouver la joke de. Hey, il y a une joke qu'on a écrite, moi puis Mathieu Saïdan, à l'île de l'amour, c'était une télé-réalité.
Mm-hmm.
On a fait passer une joke de 11 septembre. Que la prod a pas compris, c'est rendu à la télé, puis que tout le monde fait comme vous êtes bien c'est comme, il y a du monde qui ont écrit comme tabarnak, c'est drôle en crise, puis tu sais, c'est un bonheur tellement épais, c'est une télé-réalité de gars pis de filles en bikini. Puis moi, je suis content d'avoir plugué le joke de 11 septembre qui me faisait rire.
Tu sais, dans le fond, j'ai envie de savoir c'est quoi la joke.
La joke, c'est vraiment niaiseux. C'est, y a une des participantes qui est pilote d'avion.
OK.
Puis là, il y a un jeu où il joue au Jenga. Puis quand tu retires le bâton, t'as une conséquence. Embrasser l'autre. Puis là, elle, c'est elle qui retire le dernier bâton. Puis la bâton touche. Là. Bon, ça paraît qu'on est 11 septembre, c'est la pilote d'avion qui fait tomber à tour. Puis la pro n'a pas compris, il pensait que c'était une tour de contrôle, joke de pilote d'avion. Ils ont juste fait le monde risque correct. Mais Chris, 11 septembre, pilote tour.
Elle est évidente.
Je pensais qu'on a dit 11 septembre, mais on a dit pilote tour. C'est évident qu'on lit.
Mais moi, tu as dit pilote et tour Jenga, j'étais là. Mais c'est bon.
C'est bon, t'avais compris.
Mais ça, là, ça s'en vient.
On riait, là.
Ah. Ok.
J'adore le craft d'écrire. Pour moi, j'ai un esprit très cartésien, puis écrire une bonne joke, c'est comme faire un sudoku. La petite endorphine que t'as après avoir résolu un puzzle est là. Quand t'écris une joke, tu fais ah, c'est un premier spawn, j'ai trouvé la solution à un énigme. Il y a une fierté, puis je suis content de ça, qui est vraiment bizarre. Là.
Ok. En novembre 2019, tu sors le livre Le Dictionnaire des Vedettes du Québec,
ouais.
Qui était de base un compte Instagram créé par Charles, Alex Durand et Antoine Desjardins, dans lequel t'as embarqué. C'est devenu un livre avec 250 définitions dans lequel tu fais des blagues sur des vedettes du Québec. Est-ce que ça a été fun, ce projet-là?
Tabarnak, oui. J'adore le roast.
Je pense que c'était clairement établi.
Je suis un gros fan de roast. Puis là, ces deux amis-là, à moi, écrivaient ce projet-là. Puis les deux commençaient à avoir d'autres projets. Puis à la base, c'était juste un compte Instagram anonyme. Fait que, tu sais, ils commençaient à être... après, tu sais, en fait, une couple de personnes ne savaient plus quoi faire avec ce projet-là. Je suis comme, hey, moi, je peux écrire avec vous autres, juste pour le plaisir d'écrire des jokes. On avait du fun. Puis là, j'étais comme, hey, on faudrait comme... Pour moi, il y a quelque chose de... Quand tu as un projet intemporel, il y a quelque chose de beau là-dedans.
Mm-hmm.
Fait que d'imprimer un livre, il y a quelque chose de beau. Puis, man, on a trippé à écrire ce livre-là. Je pense j'en ai un dans mon char, j'en ai un.
Ah ouais, je vois.
Tu sais, vu que ça s'appelle le dictionnaire des vedettes, on a vraiment parti de l'idée de comme il faut que ça soit un look dictionnaire.
Mm-hmm.
Fait que la première page que tu ouvres à gauche, c'est tous les pays du monde comme dans un dictionnaire.
Oui.
Puis la première blague, c'est les pays où ce que Sugar Sammy pense qu'il est connu. Puis là, c'est tout de trouver des concepts de même qui sont dans les dictionnaires, puis de blaster l'ensemble du star système québécois.
Mm-hmm.
Puis à un moment donné, c'était drôle. Le monde était fâché qu'on fasse pas de jokes sur eux.
Ok, ouais.
C'est quoi, en je mode... pense que c'est connu, Chris, là. Où il y a des jokes, des fois, comme ça, on essaie de sortir une joke par jour. Fait qu'il y a des jokes qui étaient plus boboche parce que, je m'excuse, Jean-René Beaulieu, qui est un troisième rôle dans une télésérie de ma tante. Je sais pas quoi dire sur toi. Fait que c'est une petite joke facile que tes cheveux sont laids.
Oui.
Oh, mais là, tu sais, j'ai pas pris le temps pour écrire ma blague. Puis le monde était fâché qu'on était pas assez méchant.
D'accord, oui.
Fait qu'on on a eu du fun avec ça. Puis, tu sais, on a blasté l'ensemble du stand-up québécois. Puis il y a eu deux personnes de fâchés. Fait que, tu sais.
OK. Sur plusieurs milliers d'exemplaires vendus,
ouais.
Avec beaucoup, enfin, plus de 250 artistes dedans. Moi, j'avais justement demandé s'il y avait des égos qui avaient été vexés, mais seulement deux.
Ouais, près de deux. Puis c'était des anecdotes, genre un peu. Une ancienne fille de Musique Plus qui est partie vivre avec un joueur de hockey, mettons, à l'extérieur du pays parce que okay. Son chum joue. Fait qu'elle, elle connaissait pas le compte. Puis elle a juste vu une joke sur elle, elle était fâchée. Elle a dit, c'est quoi votre problème?
Oui, oui.
Puis là, après ça, elle a vu, mettons, de l'ensemble de l'œuvre. Elle a fait, ah, ok, je comprends.
T'sais. Ben, c'est le principe de l'humour avec le contexte, quoi. Il faut le contexte avec.
Puis okay. L'autre personne, je me rappelle même plus c'était quoi, mais tu sais, c'était peut-être dans les débuts.
Mm-hmm.
Fait que là, tu sais, il n'y avait pas l'historique de. Mais c'est un livre qu'on s'est payé des trips. Tu sais, comme on était followé par, je pense, 60 000 personnes sur Instagram.
Okay.
Puis nous autres, on suivait une personne, puis c'est une animatrice d'émission de ma tante. Là, que pourquoi nous autres, on suit elle? Parce que. Parce pose que... pas de questions. Tu sais, on a vraiment eu du fun avec ce projet-là. Puis un jour, peut-être un deux.
Après, en septembre 2020, tu as participé à l'émission Le Prochain Stand-Up,
ouais.
Dans lequel tu t'es rendu jusqu'en finale.
Ouais.
J'ai pas su revoir tous les numéros comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, mais je les avais vus. C'est bizarre d'ailleurs, je savais les voir quand j'étais en Belgique avec
un VPN,
mais une fois que je suis à Montréal, je sais plus le revoir.
Ouais, je pense que c'est tout le problème que je te parlais de. C'est des pièces d'or qui meurent parce que c'est des producteurs qui ont les droits, puis c'est pas les artistes, puis c'est triste.
Mais j'ai trouvé les passages vraiment bons. J'aurais voulu les revoir pour pouvoir en parler un peu plus avec toi, pour les avoir un peu plus en tête.
Le premier numéro, c'était, je racontais qu'un conférencier qui se tire une balle dans la tête et qui était devenu aveugle.
Oui, celui-là, j'ai su le revoir, avec la balle qui passe. Ouais, très, très drôle.
Le deuxième numéro, c'est moi qui passe une soirée avec des vendeurs de crack. Le troisième numéro, c'était sur la mort de mon père.
Oui, ça avec l'urgentiste que tu as au téléphone, c'est ouais. Ça? J'ai vraiment trippé là-dessus.
Puis le quatrième numéro était vraiment pas bon. Parce que, au total, ils m'ont refusé trois numéros. Parce que j'avais un numéro sur l'avortement. Qui avait des super bonnes blagues. Sont comme, on veut. Puis là, ils m'ont dit, c'est trop élevé. Je suis comme, ok, mais regarde, je vais enlever cette joke-là, cette joke-là, cette joke-là. Ils sont comme, non, on veut juste pas que tu parles de ce sujet-là.
Ok.
Puis là, je suis comme, là, c'est. Tu peux me dire qu'une joke est trop élevée, mais tu peux pas m'empêcher de dire ce que j'ai envie de dire. Mm-hmm. C'est une compétition du mot, je dois être moi.
Oui.
Puis ils ont pas été d'accord. Et j'avais écrit, après ça j'étais fâché, ça c'était pour la finale, j'avais écrit un numéro sur mesure, où ce que je trouvais ça tellement drôle de dire, tu sais moi j'ai gagné ma vie dans le sport extrême, j'ai réalisé mon rêve, là je fais de l'humour, j'ai pas envie de réaliser mon rêve, les jeunes réalisaient pas vos rêves, puis là je blastais comme toutes des personnalités québécoises qui ont réussi dans la vie, je suis comme, il a pas réussi dans la vie, il est pas heureux cette personne-là, telle personne n'est pas heureuse. Puis là, je disais ça. Tu sais, regardez en ce moment devant moi, j'ai trois juges qui sont trois humoristes. Puis en ce moment, tu sais, ils ont l'air heureux, mais tout ce qu'ils font, c'est juger un spin-off de Cégep en spectacle. Tu sais, puis c'est une joke vraiment pas méchante, mais ça closait le numéro.
OK, oui.
Puis ils nous ont dit, ben là, t'es en train de rire du spectacle, puis on n'aime pas ça. De dire qu'on est un spin-off de Cégep en spectacle.
Ouais.
Là, je suis comme, ben.
C'est de l'autodérision.
C'est de l'autodérision, puis c'est drôle de dire devant du monde qui vend du 300 000 billets par année qu'ils sont pas cool.
Mm-hmm.
Puis moi, je leur dis ça, tandis que je suis fucking moins cool qu'eux autres, puis je suis fucking moins connu. C'est ça la job, ah non, on veut pas. Okay. Parce que là, si vous m'enlevez cette joke-là, le numéro marche pas. Fait que là, j'ai fait un melting pot de plein de vieux numéros moyens, puis ça a été ça dans la finale. Fait que, un peu déçu de pas avoir fait ce que j'aurais aimé faire.
Ok.
J'ai préféré être éliminé avant, mais avoir fait tout ce que j'aurais voulu faire. Fait un peu déçu du monde de la télé. Pas nécessairement du prochain stand-up, c'est le monde de la télé en général qui est comme ça.
Mais est-ce que t'es content de comment ça a été reçu par le public ou tu te dis que il n'y a pas tant de gens qui l'ont vu?
Je suis content d'avoir prouvé que je suis un stand-up. J'ai l'impression que c'est la première fois un peu que dans l'œil du public, ok, c'est un humoriste aussi, c'est pas juste le gars du bordel.
Ok.
Fait que ça, j'aimais ça, mais ce qui est triste, c'est que c'était des belles codes d'écoute, c'était la belle visibilité. Je l'ai parti en tournée avec mon spectacle. Tout de suite après ça, tout était parfait dans le timing. Pandémie mondiale.
Ouais.
Fait que là.
Ça a freiné quelques projets.
Puis là, la pandémie finit, mais il y a déjà une deuxième mouture du prochain stand-up. Fait que tu te fais comme déjà un peu oublier.
Oui.
Parce que ça, oui. C'était un coup d'épée dans l'eau, un peu sur côté notoriété, côté du faire connaître. Puis là, en ce moment, ce qui est tough pour moi, c'est que je suis comme dans un entre-deux. À cause, je fais de la finale du prochain stand-up. Je suis plus considéré comme, mettons, un amateur. Mm-hmm. Fait que tous les concours, justement, Roast Battle, stand-up, je peux plus les refaire.
OK.
Mais je suis pas assez connu encore pour qu'on m'appelle automatiquement pour des galas puis des grosses affaires.
OK.
Je suis comme dans un no man's land qui est rushant un peu. Fait que j'aurais dû pas le faire ou attendre une année pour le faire, selon moi.
OK. Mais tu l'as dit, tu as aussi participé à l'émission Roast Battle.
Ouais.
Dans laquelle tu as été très bon, parce que le roast, c'est vraiment quelque chose que tu aimes. Tu avais aussi écrit pour beaucoup d'autres humoristes. Ouais. Tu avais écrit, je pense, pour Stéphane Fallu, qui
Stéphane
a gagné...
Morancy, la finale, c'était comme de mes jokes contre de mes jokes. J'ai adoré ce moment-là.
Mais qu'est-ce qui fait que tu aimes autant le roast en général? Qu'est-ce qui fait que tu aimes cet exercice? Et c'est quelque chose qui, par exemple, en Europe, pour le moment, ils cherchent un moyen de l'amener, mais ça ne prend pas parce qu'il y a sûrement trop d'ego. Mais
as-tu vu le film 8 Miles?
Oui, oui.
Ben, la scène, là, tu sais, ben, pour moi, le roast est la scène du film de 8 Miles. Elle remplace les rimes par des jokes.
Mm-hmm.
Il y a quelque chose de très street, de très. C'est mes talents d'écriture contre tes talents d'écriture.
Mm-hmm.
De très raw, de compétition. C'est une joke, c'est pas genre un numéro, ce que là, on juge la qualité du numéro. Non, c'est joke contre joke. Il y a quelque chose de très street, très pur que j'adore là-dedans.
Mm-hmm.
Puis même dans un roast, tu sais, t'as le roast battle, mais t'as les roasts normales. Parce que
oui, les roasts sur Comedy Central.
Les humoristes aussi. Qui doivent faire des jokes sur la même personne, c'est qui le plus drôle? Parce qu'on a tous le même sujet, là.
Mais c'est comme l'émission que vous avez, Prière d'envoyer des fleurs, qui est vraiment drôle. Enfin, j'adore le concept et il y a vraiment des bonnes jokes dedans.
Il y a des bonnes jokes, mais Trias, c'est quand même très grand public. Fait oui, oui. Il y a un peu de variété, il y a du sketch.
Oui,
du...
Rose Battle est plus
raw. Mais des vrais roasts, mettons, de, comme à la Comedy Central, c'est ça que je trouve beau, c'est 12 humoristes, même sujet, qui est le plus drôle.
C'est ça.
Fait que ce univers-là me fait capoter, puis j'adore ça. Je sais pas pourquoi il y a quelque chose de...
Non, mais je comprends.
C'est un combat de gladiateurs. C'est une joute verbale. Il y a quelque chose de... C'est à la limite, c'est comme les débats oratoires dans la Grèce antique, mais avec des télés pis des caves. J'adore ça.
Mais t'as aussi écrit le roast avec Mike Ward pour l'enterrement d'une dame qui voulait se faire roaster, qui est une de mes anecdotes préférées d'humour.
C'est tellement beau.
Juste pour remettre en contexte, donc il y a une femme qui est tombée malade, qui a eu le cancer et qui est devenue fan de Mike Ward au moment où elle était malade sur son lit d'hôpital. Elle est décédée et ses enfants ont voulu que Mike vienne à son enterrement la roaster devant des gens qui comprennent pas pourquoi il est là alors qu'en plus c'était en nombre limité puisque c'était à cause de la pandémie. Et toi, tu as participé à l'écriture de ce numéro. J'adore toute cette anecdote.
Mais c'est que, en fait, moi, j'aime vivre des expériences. J'aime ça vivre des moments absurdes, weird. Puis là, quand Mike me dit ça, je suis comme, Mike, laisse-moi faire partie de ce moment-là. C'est trop une belle anecdote à raconter de... Tu sais, un bien cuit, c'est pour être un hommage à quelqu'un qui... Mais de faire un hommage à quelqu'un qui est décédé, puis d'être méchant, il y a trop de niveaux de rire qui me fait tellement rire, puis... Le fait qu'il y a du monde dans la famille qui sont des anglophones, d'autres des francophones, fait qu'il y a du monde qui n'a aucune calice d'idées, c'est qui m'aide. Il y a tellement un million de niveaux à ça. Puis, fait que je l'aide à écrire ça. Puis juste d'écrire avec Mike est une expérience de comme c'est un estpuncher, c'est un marre. Puis que tu dis, mettons, ah, tu pensais faire de l'autre, oh Chris, c'est drôle. D'entendre Mike dire Chris, c'est un asti d'honneur. Puis, fun fact, un de mes amis m'appelle, fait comme yo, t'as écrit avec Mike pour l'enterrement de ma mère. C'est un gars de BMX qui donnait des cours quand j'étais jeune. C'est sa mère à lui, mais c'était sa sœur qui avait appelé Mike. Fait que, en fait, le gars était voir Mike, fait comme, hey, je suis désolé de t'arranger, mais tu connais Charles Deschamps, là, c'est ton partner, bordel. Je faisais du BMX avec. Ben, c'est lui qui a écrit des jokes avec moi. Fait que là, lui, c'est un esti d'honneur, genre, un kid à qui il donnait des cours, il a écrit des jokes sur sa mère. Puis, man, il y avait des jokes vraiment violente, là, tu sais, comme... C'était quoi la joke,
en même temps, avec les deux personnes qui ont écrit là-dessus. En plus, c'était ce qu'elle voulait, donc c'est... Vas-y, fais-toi plaisir.
Attends, il y avait... C'est une madame qui était très coquette, tu sais.
Okay.
Elle allait chez le coiffeur à chaque semaine, puis une des jokes, c'était comme... quand elle a appris qu'elle avait le cancer, elle était comme... Oh non, je pourrais plus aller chez le coiffeur. Tu sais, c'était des jokes de même sur... perte de cheveux de cancer devant ses enfants qui viennent de perdre leur mère du cancer. Wow!
Je veux ça, mon enterrement.
Et moi aussi, je veux ça. Et j'ai des hauts.
Oh!
Et c'est fucked up. C'est pas le fun à regarder. C'est pas... Ah, Mike est excellent, mais c'est... Tu vois le prêtre arriver après Mike, puis qui dit « Merci, Monsieur Ward, pour cet hommage humoristique. » C'est l'affaire la plus drôle que j'ai vue au monde. Mike s'en fait déprésenter par un prêtre. C'est drôle, hein? Tabarnak, là.
Mais c'est ça, j'aime tout dans cette anecdote. Donc, je devais t'en reparler.
Ah, j'avais oublié ce moment-là dans ma vie.
J'ai deux petites questions pour un peu terminer, parce que je pense que je suis revenu sur une majorité de ton parcours. Je suis désolé si j'ai oublié des choses.
Ouais, j'en ai pas que je me rappelle. Là.
Ça va.
Ah, j'ai déjà fait du flair bartending.
Oui.
Ça a été mentionné. Parfait, on passe au prochain.
Donc, juste c'est le flair bartending, c'est ça que
ouais, dans le jongler avec les bouteilles derrière le bar puis cracher du feu. Puis
voilà, t'as fait ça.
Ouais, ok. C'est tout. J'ai l'impression que ton podcast est tellement complet.
Oui.
Qu'un jour, à 70 ans, je vais vouloir rappeler ce que j'ai fait dans ma vie. Je vais juste réécouter ton podcast.
Ça marche. Tu l'as fait à quel moment pour qu'on soit précis?
Dans les bars en général, là, 18 à 23, là, 18 okay. à 24.
Et le pire, c'est que je l'avais entendu, mais je l'ai passé. En me disant, il trouvera pas ça important.
C'est pas un moment marquant.
J'ai deux questions un peu générales que j'aime poser dans chaque épisode. C'est qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de faire de l'humour en général?
Ce que j'aime le plus, le feeling de tester une nouvelle joke puis qu'elle marche. C'est un feeling d'adrénaline qui est... C'est tellement... T'embarques sur scène, là. T'as 120 personnes qui te regardent. Puis t'es comme, je pense que j'ai quelque chose qui est très cocasse. C'est tellement une ou l'autre des réactions. C'est genre comme, t'es vraiment épais ou genre, t'es un fucking génie puis il rit. Puis la limite est tellement mince que tu te pètes la gueule ou tu te fais applaudir que c'est un feeling que j'adore jouer dans le risque et c'est un feeling que j'adore. Fait que c'est la plus belle chose au monde. Je préfère ce feeling-là que, mettons, avoir un standing ovation après un numéro super rodé. Là, il était rodé. Je savais que ces jokes-là marchent. Là. Je vous ai menti. C'est pas la première fois que je compte ça. Je trouve qu'il y a quelque chose de tester le jeu pour la première fois, c'est la plus belle chose au monde. L'affaire la plus triste.
Ce que t'aimes le moins, en tout cas.
Il y a. Ce métier-là est dangereux pour la santé mentale, man. C'est dangereux. Puis je fais beaucoup attention à moi de plus en plus sur être heureux dans la vie. C'est quelque chose qui est plus tough qu'on pense. Puis je trouve les manières d'être heureux. Mais tu sais, la part des humoristes sont malheureux dans la vie parce que chaque soir ou plusieurs fois par soir, tu montes sur une scène et t'es la personne la plus drôle au monde pour 120 personnes pendant 10 minutes. Puis après ça, tu retournes dans la vraie vie. Puis t'es quelqu'un de normal. Tu sais, t'es une rockstar pendant 10 minutes. Puis après ça, tu sais, comme tu rencontres des gens normaux, puis t'es pas aussi drôle que quand t'étais sur scène. Fait que tu t'aimes moins.
Ouais.
T'aimes plus la personne que t'es pendant 10 minutes parce que t'as travaillé chaque virgule de ce que tu vas dire, mais après ça, t'arrives dans la vraie vie. T'es moins drôle, t'es moins le fun, t'es moins intéressant, t'es moins punché. Fait que tu t'aimes moins. T'sais, après ça, c'est tellement facile de s'enfler l'ego, tu sais, tu reviens à un show, t'as fait rire une salle de 1000 personnes, puis là, ta blonde est fâchée parce que t'as pas sorti les poubelles, t'as pas fait la vaisselle, t'es stressé toute la semaine, puis t'es comme, hey, il y a 1000 personnes qui riaient de tout ce que j'ai. C'est tellement niaiseux. Faire rire du monde, là, c'est pas un must à la société, là. On n'est pas en train de sauver des vies. Mais, c'est ça, t'es comme, t'as ce feeling-là de comme, d'être important alors que t'es fuck all, là, t'es une merde, tu passes ton temps à écrire des niaiseries puis tu fais rire du monde, on n'est pas important en société. Mais après ça, c'est fucky comme job, c'est vraiment.
Je crois que c'est pas pour rien que tous les humoristes parlent de l'humour et de faire de la scène comme une drogue.
C'est une drogue, c'est.
Et la drogue, il y a les côtés négatifs aussi.
Il y a rien surtout de positif dans la drogue, à part le high du moment que tu fais la drogue. Mais, tu sais, honnêtement, ça fait 10 ans là, que je traîne dans ce milieu-là. Je connais 4 personnes qui sont heureuses à faire ce métier-là. Là. 4. Genre, je m'excuse de t'avoir dit ça. Ouais,
petit message d'espoir pour tous les humoristes qui écoutent.
Puis, mettons, moi, je pense que je suis heureux, puis je me considère, mettons, un 6 sur 10 là, dans le bonheur. Tu sais, Daniel Grenier a l'air heureux, Mike Patterson, pas mal de tout.
J'espère qu'il y en a plus, mais après, être heureux, est-ce que tu l'es tout le temps? Est-ce que c'est un moment? Je pense qu'il y a des moments où on est heureux, mais est-ce qu'on est heureux en finale?
Heureux et zen, tu sais, parce que ces gars-là aussi sont malheureux, c'est parfois dans la vie, mais j'ai l'impression qu'ils sont heureux. Ce métier-là ne les rend pas malheureux.
Ok, oui.
Il y a beaucoup de monde que dans ce métier-là qui sont amers, parce que, man, c'est weird, tu sais, comme. La différence de salaire, d'opportunité, de visibilité, d'amour entre deux humoristes peut tellement être grande quand ils ont le même talent. Oui. Tu sais, t'as des humoristes qui sont multimillionnaires au Québec, t'as des humoristes qui ont de l'argent à payer leur loyer, puis ça veut pas dire que l'un qui est plus drôle que l'autre.
Oui.
Fait que t'as une jalousie qui s'installe, une amertume qui s'installe chez certains humoristes, qui est comprenable, malheureusement, de comme pourquoi lui a tout, puis moi j'ai rien. Puis plus que t'as tout, plus que le monde veut tout t'offrir. Fait que ça rend des gens très malheureux, puis très. Puis, quand t'es au top, t'es pas plus heureux parce que t'as peur de tout perdre. Fait que c'est que du monde malheureux, là. Mais c'est le fun en crise, c'est le fun en crise, j'adore ça.
Oui. Après, j'ai pas de suite à ça. Je pense que c'est triste.
On va finir là-dessus, là.
Mais non, on va pas finir là-dessus puisque.
C'est triste un peu comme conclusion.
C'est un peu triste comme conclusion, mais justement, la dernière question, c'est plus positif, plus pour la suite. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière?
Dépenser le bordel.
Ok.
En fait, le bordel, je peux pas me l'approprier. Pour moi, je trouve qu'il y a trop d'affaires. Mm-hmm. Il y a trop de monde qui ont travaillé ça, autant les humoristes que toutes les personnes qui travaillent ça, autant que Luc. Mais faire quelque chose de beau dans ma carrière que je peux pas m'approprier, puis que, tu sais, moi, mon seul but dans ma carrière d'humoriste, c'est qu'on fasse de quoi, d'être capable de faire de quoi que va marquer mon époque, que le monde va se rappeler de moi. Tu sais, que ça. Puis je travaille là-dessus, puis il faut juste que ça dépasse le bordel, éventuellement.
Okay. Okay.
C'est juste ça que je souhaite. Ça ne sera pas en 2023. En fait, j'aimerais ça, mais ça ne sera pas genre.
Mais je te le souhaite. Je te le souhaite. On va passer à l'interview name dropping pour conclure ce podcast.
Boom.
Donc ici, comme je te l'ai dit avant d'enregistrer, je vais te demander un humoriste, une personne, homme, femme, québécois, français, allemand, peu importe. Mais tu dois te limiter à chaque fois à une personne, et c'est ça qui est difficile. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré.
L'humoriste le plus sympathique, Daniel Grenier.
L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus?
Zouk Sanro.
L'humoriste qui écrit le mieux?
Mike Birbiglia.
Ouh. L'humoriste qui joue le mieux?
Simon Gouache.
Oui, qui est un ancien invité du podcast aussi, qui est très très bon en jeu.
Je comprends. Un humoriste qui t'a surpris dernièrement.
Adzib tout le temps.
Ok, je vais le voir samedi et je suis tellement content d'aller voir son spectacle. Et maintenant, je vais te demander de choisir entre deux humoristes. Tu dois me dire lequel des deux te fait le plus rire. Donc attention, je le dis dans chaque épisode, mais le but ce n'est pas de dire que l'autre n'est pas drôle. Tous ceux qui sont cités sont uniquement des gens très talentueux, en plus que j'ai pris des gens que Charles aime bien. Mais le but c'est juste de voir qui te fait rire un tout petit peu plus que l'autre, qui est-ce qui te touche plus.
Parfait.
Mais c'est vraiment en termes de rire. Donc tu pourrais préférer un humoriste que l'autre, mais c'est rien, y a rien à faire, c'est celui qui te provoque le rire.
C'est celui qui fait le plus rire.
Et tu peux justifier ou pas si tu as envie.
Parfait.
Entre Louis C.K. et Dave Chappelle.
Oh shit! Louis me fait plus rire parce que j'ai l'impression que Louis va plus dans le malaise, il est plus dans le wrong, tu sais, des gros bits à pédophilie, des affaires plus wrong. Dave, il est plus dans le sociétal et d'après moi, il y a une critique de la société qui est plus complète. Tandis que Louis, il est dans le fun d'aller dire des affaires qu'on n'a pas le droit de dire. Louis me fait plus rire. Mais j'ai deux grands humoristes que j'adore.
Entre Bo Burnham et Doug Stanhope.
Oh, t'es pas correct, man. Bo Burnham. Oh, que ça fait de mal à dire. Bo est dans un air qui est en contrôle de son art, qui est de manière innovative. Ok, je suis plus impressionné par Doug Stanhope. Malheureusement, je vais avoir les plus gros rires dans un spectacle. Je vais être pendu aux lèvres de Doug, mais rire plus fort à Beau.
Ok.
Oh, mais j'aime. Oh, pas cool.
Et encore, j'ai pris. Pour le moment, c'est que des gens qui sont pas proches de toi.
Cette question-là, je pense que c'est celle qui fait le plus mal parce que c'est deux gars qui sont aux antipodes. Puis qui disent. C'est gênant de dire que genre, c'est mes deux préférés. C'est deux de mes deux préférés.
Ça marche. Mais honnêtement, j'ai rajouté Doug Stanhope maintenant parce que t'en parlais. Je me suis dit ça va être plus marrant parce que j'avais mis John Mulaney à la base, mais je ne sais même pas.
Ah, si Bo Burnham.
Burnham, ça aurait été trop facile.
Bon, John Mulaney, mais je suis vraiment plus un fan de Doug que de John Mulaney.
Et Bo Burnham, j'ai vu que tu avais été voir son spectacle parce que t'avais ses tickets sur ton Instagram.
Oh my god.
Ouais. Entre Thomas Wiesel et Sugar Sammy.
Thomas.
Ok.
Bon, je suis pas besoin de Thomas me fait beaucoup rire. Parce qu'il y a un côté très roast aussi. Mm-hmm, roast plus oui. de sociétal.
Mais lui, par exemple, en France, on l'avait appelé pour faire des roasts. Il avait écrit des versions. On a lu, on a fait, on fera pas l'émission. C'est trop fort.
Ah ouais?
Il l'a dit dans certains podcasts que, après avoir lu ce qu'il avait fait, on lui a dit, on peut pas, c'est trop,
oh my
c'est
God.
Trop. Et connaissant Thomas, de ce qu'il fait sur scène et de ce qu'il écrit sur les réseaux sociaux, je peux comprendre, mais j'aurais adoré voir ses blagues.
C'est sûr. Mais Sugar Sammy, en fait, j'ai l'impression que c'est un maître dans un art, tu sais, qui est le crowd work, tout mm-hmm. ça, qui est pas l'art que j'apprécie le plus dans la sphère humoristique de stand-up, mais c'est un maître. Un maître Jedi, mais je préfère le côté obscur du roast.
Ok. Entre Fary et Tania Dutel.
Ah, t'es pas cool, Steve.
C'est même pas les pires.
Ah, man. Fary.
Ok.
Ouais.
Entre Phil Roy et Jay du Temple.
Jay de ce temps-là. J'étais coloc avec Phil. Phil, il est beaucoup dans le delivery. Jay aussi était beaucoup dans le delivery. Puis là, comme Pony, dans les dernières années, une espèce de plus stoïque, plus dans les textes. Puis je suis plus un gars de texte que de delivery.
Pareil.
Ouais.
Entre Maxime Martin et Pierre-Bruno Rivard.
Pibi me fait plus rire. C'est chier pour Max. Je suis désolé. Max, c'est. Ah, calé, c'est vrai, Pibi.
Entre François Bellefeuille et Laurent Paquin.
Bellefeuille me fait plus rire, Laurent m'impressionne plus.
Entre Mike Ward et Louis-José Hood.
Mike me fait plus rire. J'aime beaucoup les discussions, tout ce qui est tabou, tout ce qui est élevé, c'est avec Mike. Désolé, Louis-José.
Et dernier choix, entre Joe Guérin et Anthony Rémillard.
Oh, t'es pas cool, là! C'est les deux meilleurs jobs! Joe fait plus rire. Joe, il est cave. Stick, il est cave. J'adore ce que Joe fait. Hey, je vais compter une de ses jokes parce que dernièrement, il parle de sa femme de ménage puis il fait un accent espagnol genre t'es comme man c'est Joe tu peux pas faire ça c'est comme un peu genre c'est pas ses dates là, c'est raciste puis dans la joke il fait comme ah non elle est pas mexicaine c'est nous qui demande de parler avec l'accent espagnol. il juste cave tout le temps. Man, il a fait un numéro au gang show déguisé en arbre, pis c'est juste des jokes d'arbre.
Ah, on a parlé de ce passage.
J'ai pas de boulot. Chris qui est con, il fait rire, c'est un épais, mon épais préféré.
Et la dernière question, qui est la dernière question de tous les épisodes, qui est-ce que tu aimerais entendre dans le prochain épisode?
Un gars que j'aime beaucoup, dans le même format, que j'ai des discussions tout le temps avec, du monde qui est vraiment intéressante, mais que souvent c'est entre deux shows de quoi, c'est Jean-Michel Martel.
Ok.
Trois heures de Jean-Michel Martel, ce gars-là est geek, d'humour, over geek, là, surtout maintenant tu vas dans les Jean Thomas puis les Denis de Relais, mais de n'importe quoi. On parlait de. C'est bientôt les 35 ans de l'école de l'humour, puis ils font un gala tout le temps, 35, 30, 25, 20. Mm-hmm. Puis j'étais comme, tu te rappelles-tu du gala du 5e, ce qui s'est passé ta propre. Oh ouais, mais genre, personne d'autre à part, genre moi, lui, puis deux, trois autres. Obscur, là. Il est très geek, puis il a un estimate comique, puis on est un peu dans la même vibe de on veut faire de quoi qui va être intemporel, puis marquer le milieu de l'humour, parce que le milieu de l'humour nous a tellement marqué, puis d'espérer, tu sais, c'est très cocky de dire j'aimerais ça marquer ce milieu-là qui m'a marqué pour qu'un jour, tu sais, c'est très cocky, mais tu sais, lui avec, il veut pas de l'argent, il veut pas de la célébrité, il veut pas un one-man show, il veut juste trouver une manière de laisser cette petite marque, ce pichenote-là dans un livre d'histoire. Là,
okay.
Mais c'est un très bon invité si tu veux l'avoir un jour.
Mais je pensais l'inviter, je t'avoue que j'espérais le voir une fois en vrai, parce que je trouve que ça rajoute un truc encore plus. Mais on avait discuté, parce que j'ai fait un épisode avec Jean-Thomas Jobin, et du coup j'ai un message de Jean-Michel Martel pour me dire... Enfin, je sais plus exactement ce qu'on disait, mais on pourrait échanger sur le fait qu'on aimait trop Jean-Thomas Jobin, quoi. Et ça me faisait rire qu'un humoriste qui marche bien m'envoie un message à un Belge pour parler de Jean-Thomas Jobin.
Ah, mais c'est ça, c'est Jean-Michel Martel. Il est totalement geek, là.
À fond. Mais c'est un truc aussi que j'aime de l'humour, c'est que, on s'en fout, quoi. On aime juste parler de ça. Et tu prends deux humoristes, tu leur fais parler d'un autre humoriste, et il y a que du bon qui sort.
Il paraît que le plus gros geek de l'histoire de l'humour, ça serait Jimmy Carr.
Ah, ok.
Il y a une légende qui...
Mais il en parle... J'ai écouté un podcast l'autre jour avec lui, je sais plus...
Genre, il connaît le top 10 des humoristes de tous les pays.
Ok.
Genre, ça n'a pas rapport, là.
Ok, objectif de vie, être être connu par Jimmy Carr.
Puis il écoute genre du stand-up en japonais juste parce que c'est des musicalités différentes.
Ah, oh, punaise.
C'est genre over-geek, là.
Mais je l'ai entendu dans un podcast où je sais plus c'est de qui, mais il faisait genre 4 références de numéros d'autres personnes dans ce qu'il disait pour parler d'humour. Il a lu des livres, il en a écrit. Ouais, ça a l'air d'être vraiment sympa, donc... Bon, si tu écoutes le podcast, au passage, je veux bien t'avoir dans l'invité aussi. Ça m'étonnerait. Déjà, tu parles pas français, je pense.
Je pense pas.
On va tout traduire en anglais pour que tu puisses
passer. Il connaissait Mike Ward de son stand-up francophone, même s'il il parle pas français.
Ok. C'est... Et Mike a écrit pour lui...
Ouais. Une couple de jokes pour le roast de Rob Lowe, je pense.
Ouais, c'est pour ça. Ok. Ben, pourquoi pas Jean-Michel Martel? Pourquoi pas Jimmy Carr? Genre, pourquoi pas? Oui, bien sûr.
Oui.
Mais pour le moment, j'ai fait qu'un seul épisode en anglais, donc on va voir s'il y en aura d'autres. Mais voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir pris le temps de m'avoir permis d'enregistrer au bordel. Rien que ça, c'est déjà trop cool.
C'était juste plus simple pour moi, puis j'ai pas obligé de faire le ménage.
Merci beaucoup.
Un plaisir.
Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that.
Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.